Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonsoir et bienvenue dans Underscore. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Désolé pour la petite minute, les 5 minutes de retard.
Non, pardon, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi.
C'est peut-être le fait que je viens de m'asseoir il y a 30 secondes et qu'on commence.
Il faut rire de Tiffany pour commencer, avec plaisir.
Non, mais c'est l'excitation d'être ensemble pour cette émission. C'est moi qui suis à l'origine des 5 minutes de retard, pardon, pardonnez-moi. Il y a des petits faux départs finalement, ce qui est frustrant. Le 10, 9, 8. Oui.
Et en il a du cut.
C'est un peu énervant.
Quand t'es viewer.
Désolé. J'espère que vous allez bien. Ça va?
Ouais, très bien.
Bah, tu as l'air d'aller, visiblement.
Ouais. Ça va. Je trouve que le début d'année est difficile, mais.
Mathieu, tu vas, par exemple.
Ouais. On est.
Voilà. Mon acte du jour. J'ai subi cette journée.
Et j'ai remarqué que tu as une. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. J'ai remarqué que tu as un magnifique device. C'est la première fois que j'en vois un pour de vrai. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est?
Ok, alors je fais de la. C'est une sorte de pub.
Mais pas payé.
C'est un chèque.
J'ai fait l'acquisition de cette tablette il y a un ou deux mois, qui s'appelle Remarkable. Et puis j'aime beaucoup le. En fait, ce qui me manquait, je trouvais, en prise de notes, c'était de pouvoir écrire. Et on a de moins en moins de papier, surtout dans nos tafs. Je sais pas, moi, j'en ai pas trop chez moi. Ouais. Et j'aime beaucoup.
C'est vraiment fait pour prendre des notes, hein. C'est pas une tablette en mode.
Non, c'est vraiment pour écrire. Et la sensation du stylo sur la tablette est vraiment très cool. Et du coup, je ne prends plus que mes notes comme ça. C'est très.
Ok, parce que moi c'est genre le truc que j'ai vu passer. C'est un peu comme le Lightphone, par exemple. Je sais pas si.
Ouais. Pour moi, c'est les trucs. Le concept est génial.
Ouais.
Mais je sais que j'en aurais pas l'utilité. Exactement. Et que il va très vite se retrouver sur une étagère.
Exactement. Celui-là, j'ai résisté à la tentation parce que je me connais. Et ah ouais. je sais qu'il va finir.
Ça fait un device en plus.
Non, mais alors, c'est trop marrant parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois passer et ça fait peut-être, je pense, 2 ans qu'à chaque fois que je le vois, je me dis, ah, et comme toi, tu vois, je me retiens. Et en fait, du coup, j'ai craqué au Black Friday, là.
Et du coup, maintenant, tu prends des notes juste pour l'utiliser, justifier ton achat.
Non.
T'es une ville consommatrice, finalement.
Du tout. En vrai, j'aime beaucoup et ça a vraiment changé ma façon de prendre des notes. Okay. Mais après, et je pense que on a tous une façon différente.
Non, mais juste, ouais, moi, je sais pas. Par contre, c'est un très joli objet.
Et surtout, moi, j'ai vu qu'il y a une communauté de hacking autour du Remarkable.
Ah, alors ça peut me faire changer d'avis.
Exactement, tu peux vraiment apparemment faire un peu tout ce que tu veux avec. Ce qui est sympa.
Ah, je suis intéressée, du coup.
Bah ouais, genre, je sais pas exactement ce que, si certains dans le chat se sont amusés avec leur Remarkable, et ben, n'hésitez pas à nous dire ce qu'on peut faire. Je sais que j'ai juste vu des copains à nous, je sais plus qui c'était,
ah,
les Bretons,
okay.
Avec ça et qui s'amuse avec, ouais.
Oh, ça m'étonne très peu, mais.
C'est ça, exactement. Désolé, moi je set up tout ça. Est-ce qu'on peut commencer par les news direct si vous voulez?
Bah, carrément. Tiffany, je te propose de commencer.
Voilà. Et du coup, j'ai pris des notes.
Wow. Sur ta. Remarkable.
En plus, c'était une belle écriture, franchement.
Merci.
Ah, et c'est pour ça aussi que je la prendrai jamais.
Tu ne pourras pas te relire.
C'est clair.
Ah non.
C'est comme toutes les vidéos satisfaisantes des étudiants qui t'expliquent comment ils prennent leurs notes sur leur iPad, ouais, et tout là.
Mais non.
Mais dans la vraie vie, c'est dégueulasse. Enfin, bon, pardon.
Ouais, alors du coup, effectivement, j'aime bien quand c'est joli mes prises de notes. Ça, mais enfin bref. Donc moi, la news, j'ai lu ça il n'y a pas très très longtemps et j'ai trouvé ça super cool. Les scientifiques de Google avec DeepMind ont participé à la découverte de 380 000 matériaux, nouveaux matériaux.
Ah, c'est vrai.
Alors j'ai trouvé ça un peu fou comme chiffre, mais du coup, pour creuser un petit peu plus, en fait, il y a un projet qui s'appelle le Material Project, et du coup, c'est une base de données de potentiellement nouveaux matériaux. Et en fait, dans la recherche de nouveaux matériaux, si vous voulez, Il y a plusieurs critères, mais du coup, il y a les structures cristallines des matériaux, qui sont les arrangements des atomes dans le matériau, et il y a aussi la stabilité, donc l'énergie qui est répartie entre ces atomes, qui définit un peu la stabilité, donc la résistance de ces matériaux-là. Ouais. Et du coup, en fait, on peut théoriser un peu sur comment on peut réarranger certains atomes pour pouvoir créer des nouveaux matériaux. Et donc, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut tester plein de nouveaux types de cristaux.
Ils ont brute forcé
la
création de cristaux.
Et j'ai trouvé ça incroyable parce que, du coup, ils ont créé une IA qui s'appelle GNOME, donc ça veut dire Graph Networks for Material Exploration. Et donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire plein de réarrangements de cristaux possibles, enfin potentiels. Ils vont calculer la stabilité de chacun de ces cristaux.
Ouais.
Et ensuite, après, bon, c'est de la théorie, il faut les tester. Ouais. Et donc ils ont branché un robot qui est contrôlé par une IA, qui a un bras en fait automatisé, et qui lui du coup va créer ces matériaux et les tester.
De bout en bout le truc.
Ouais, ils ont automatisé toute la chaîne de production, et en fait ils sont arrivés à produire, ils ont publié ça dans Nature, en 17 jours ils ont réussi à produire 41 nouveaux matériaux sur 58 qui étaient vivables, enfin qui étaient intéressants, enfin je veux dire qui avaient des propriétés intéressantes, et du coup je pense que ça va complètement changer le game de la création de nouveaux matériaux.
Et on sait ce qu'ils font par exemple.
Il disait qu'il y avait plusieurs choses, des nouveaux types d'aluminium pour les voitures pour qu'elles soient plus légères mais toujours aussi résistantes. Donc ça pourrait être des voitures qui consomment moins en essence, par exemple. Dans les énergies renouvelables aussi, ça pourrait être une façon de créer de nouveaux panneaux solaires plus efficaces. Aussi des nouveaux transistors pour les computers pour les ordinateurs. Donc en fait ça s'applique à beaucoup de choses. C'est très très vaste. 380 000 nouveaux matériaux, c'est quand même potentiel à tester, c'est quand même incroyable.
Ça dépend, c'est à dire que s'il y en a 399,999 000 nuls qui ne servent à rien,
en fait c'est ça, il en a produit 2,2 millions. Et sur les 2,2 millions, il y en avait 380 000 qui ont une stabilité potentiellement intéressante. Et dans ce pool de 380 000 là, ils en ont créé 41. Enfin, 58.
Ce qui est déjà énorme à l'échelle de l'avancée de la recherche dans les matériaux de ce qu'ils faisaient avant, quoi.
Bah,
50
en fait,
nouveaux matériaux en si peu de temps.
De la kryptonite.
Exactement. Ce qu'ils expliquent dans l'article.
Pas encore. La kryptonite.
Mais ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est que avant ça, pour faire un seul nouveau matériau par des chercheurs, ça prenait plusieurs mois. Mmh. Et là, ils en ont fait 41 en 17 jours. C'est quand même, on est en train de casser quelque chose.
Ouais. Et en plus, c'est le genre de, les matériaux, c'est le genre de, j'ai l'impression que c'est, tu vas pas avoir une news toutes les semaines, c'est très, ça arrive, en vrai, ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. C'est plus des trucs qui sont sur le temps long.
Genre, on a trouvé un semi-conducteur,
par exemple. Tu sais qu'il y a eu des rebondissements dans cette histoire. Ça suit.
Mais nous, on en parlera le jour où ça deviendra vraiment.
Pour l'instant.
Pourquoi quelqu'un demande si il est prévu que JB Kemp vienne ce soir? La réponse est non, mais pourquoi cette question? Est-ce qu'on l'a oublié dans un bot, un moubot, non?
Ah non?
Je sais pas, non, mais.
Non, je pense juste qu'il aime bien, et du coup, c'est pas moi, il lance des trucs comme ça.
Au cas où.
Et Bill Gates, il était pas prévu ce soir?
Pas prévu. Je vous le dirai. T'as peut-être une petite news pour nous?
C'est pas vraiment une news, c'est une histoire qui date un peu, mais je suis tombé en fouillant un peu trop Internet un soir où j'avais envie de fouiller Internet. Et qu'en plus, ça réunit mes deux passions, c'est-à-dire des histoires de hacking et la bière. Et en fait, c'est l'histoire d'une brasserie qui s'appelle Neil Brasserie, créée en 1951, qui est le plus grand fabricant de bière en Ouganda. Il a 52% du marché ougandais. Et il se fait pirater son site web. On y supprime son contenu. Jusqu'ici, une histoire assez chiante et très banale. Sauf que c'est très marrant la tournure qu'a pris ce piratage, parce que les pirates n'ont pas du tout réclamé une rançon en crypto-monnaie ou diffuser un message politique ou les diffamer. Ils ont rien fait de tout ça. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont demandé, les pirates?
Des stocks de bière.
Ouais.
Ouais.
Coller les morceaux.
Ou bière à vie.
En vrai, vous avez des bonnes idées, mais c'est pas ça.
C'est la bière, quoi.
C'est la bière. Mais en fait, ils ont découvert qu'il y avait une recette de bière stockée sur les serveurs de la brasserie. Et ils ont exigé la mise en production de cette recette sous 24 heures. C'est incroyable. Il y avait, en gros, c'était un message vidéo en sweat à capuche, noir évidemment, tu sais, tous les clichés. Ceci est un message pour Neil Brasserie. J'ai parcouru vos serveurs et j'ai découvert que vous étiez assis sur une formule de bière. Voici donc ma demande. Produisez cette bière immédiatement ou la formule sera rendue publique. Vous avez 24 heures.
Alors, du coup. Ils ont répondu quoi?
Alors, en fait, on leur a demandé si c'était pas un plan marketing.
Ah oui.
Parce qu'en vrai.
Ah ouais. Voici.
Du génie. Et en fait.
Et là, ils la sortent.
Ils ont confirmé le piratage.
Oh là là là.
Et du coup, ce que je sais pas, parce que j'ai un peu arrêté mon dig d'internet ce soir-là, et je sais pas si la bière a été brassée depuis. Donc, si vous voulez, si vous avez une soirée à tuer, je suis très chaud de savoir si finalement cette recette de bière a été brassée ou pas.
C'est génial.
Mais voilà.
Franchement, j'aurais été eux, j'aurais surfé sur le truc. Tu fais un truc en 10 épisodes, la réponse de la réponse.
Ouais.
Et bam, ils sortent la bière. Franchement.
Mais après, je sais pas à quel point ils ont des services de com très importants à Neil Brasserie, tu vois. Enfin, même si.
Certes. Moi, j'ai pas de news pour vous aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que j'ai une chronique et c'est pas si mal. Et d'ailleurs, je vais vous présenter le programme. Ma chronique portera sur qu'est-ce qui manque aujourd'hui, en fait, pour qu'on ait Jarvis. Comment ça se fait qu'on n'est toujours pas Jarvis? On parlera de ça et je me baserai effectivement sur des news très récentes d'appareils qui ont été annoncés lors du CES que vous avez peut-être entendu, vu, le Rabbit R1 notamment. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, Tiffany.
Oui, j'ai vu la news.
Eh bien, on va en parler. Mais surtout, réfléchir un peu à qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui va débloquer finalement le fait qu'on ait tous des suits Iron Man. en fin d'émission, on reviendra sur les restrictions annoncées par la Chine sur les jeux vidéo, que vous n'avez probablement pas vu passer, mais on en parlera. Et ce que ça dit de la monétisation un peu border de cette industrie. On s'est dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu, si vous ne connaissez pas les rouages de l'industrie des jeux vidéo, Gotcha Game, tous ces trucs-là, eh ben, on va vous montrer un peu ces coulisses. Et pour commencer, on vous a dégoté ce qui est potentiellement pour nous la seule solution de sécurité dont vous avez besoin pour détecter des malwares sur vos machines. Et elle est gratuite en plus. Et c'est pas une sponsor.
Non.
Très intéressant.
Après, à tout moment, s'ils veulent. Hein.
Oui, alors, n'hésitez pas. C'est parti. Jingle. La question que pas mal de gens se posent, c'est: avez-vous besoin d'un antivirus? Éternelle question à laquelle on répond souvent que non, il n'y en a pas vraiment besoin. Et en réalité, si vous pensez avoir besoin de rien, c'est que vous êtes un peu à côté de la plaque. Mais si vous pensez que vous avez absolument besoin de payer, eh ben, vous avez également tort, en fait. Vous pouvez oublier Avast ou Windows Defender. Ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Vous pouvez mettre tout ça à la poubelle. Ce n'est pas d'un antivirus dont on va vous parler, mais d'une autre solution qui est gratuite.
Et je suis tombé sur un outil absolument dingue, et c'est un outil de cyber vraiment très complet, et je vais vous le présenter. Mais avant, répondons à cette question, pourquoi on en aurait besoin? Parce que, de base, tout simplement, une erreur humaine, ça arrive. Cliquer sur un lien de phishing ou même introduire une clé USB qui contient un malware. Bref, l'humain est faillible, et c'est un truc de marketing, enfin une phrase de marketing d'entreprise de la sécurité qui dit que la question n'est pas de savoir quand on va être compromis, la question n'est pas de savoir si on va être compromis, mais plutôt quand on va être compromis. Donc ça fait très argument marketing, mais en réalité,
pas si con, ouais.
C'est pas totalement faux, surtout en 2024 où c'est des choses qui peuvent arriver. Potentiellement, nous allons tous être hackés un jour. Alors, habituellement, ce qu'on connaît dans ce marché, ce sont les antivirus. Donc, t'en as cité Avast, Antivir, Kaspersky, EZ, bref, il y en a plein. Et alors, comment marche un antivirus? En gros, un antivirus, ça détecte des virus ou des malwares qui s'attaquent à notre ordinateur, et ça compare via une base de données de signature la signature du logiciel qu'on a téléchargé ou du fichier pour détecter si ou non c'est un fichier malveillant ou si c'est un programme malveillant. Et si ça l'est, ça le met en quarantaine. C'est un principe qu'on connaît très bien, et en fait c'est le même principe qu'un virus biologique finalement. C'est le virus biologique qui est identifié par nos globules blancs grâce au vaccin qu'on a eu des années avant, et ben les virus vont le pas le mettre en quarantaine, mais le fight. et du coup, on va détruire le virus. Globalement, pour faire très simple.
En fait, on n'a rien inventé.
Alors, on a, c'est très, ça, bah, ça marche, hein, c'est chouette, hein, mais globalement, c'est un truc qui existe depuis la nuit d'internet et des ordinateurs. Et jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'en fait, il y a une autre option aux antivirus. Et ça s'appelle les EDR. Alors, les gens qui travaillent dans la sécu, ils savent évidemment ce que c'est, mais les autres, pas forcément. Un EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Donc, le fait de détecter et apporter une réponse aux failles... Endpoint, on va pas traduire. Démerdez-vous. Globalement, ça va détecter au-delà des logiciels malveillants. Pourquoi ? Parce que c'est capable d'identifier des schémas de comportement. Et en fait, ça, c'est vachement plus vénère. Ça peut, au lieu de détecter un malware, un logiciel malveillant, ça peut détecter des activités suspectes. Alors, c'est très large, mais du coup, je vais vous prendre des exemples très, très simples. Par exemple, quelqu'un qui ouvre Outlook. On est dans une entreprise, un employé ouvre Outlook, et juste après avoir ouvert Outlook, il télécharge un .exe. Et ben, ce comportement, qui peut être tout à fait anodin, on a le droit de télécharger un .exe d'Outlook, on peut faire remonter ce comportement précis à l'EDR et avoir une petite notification au service de sécurité pour dire, tiens, un tel, il a téléchargé un .exe, et potentiellement aller fouiller ce que c'était, voir si c'était pas quelque chose de malveillant. Je prends un second exemple si vous n'avez pas encore compris. On peut mettre en place un système de détection où quand quelqu'un plug une nouvelle clé USB qui n'a jamais été plug sur un ordinateur et que dans les 5 secondes, il a tapé sur son clavier et il a téléchargé depuis quelque chose depuis Internet, par exemple il a fait un curl sur son terminal, et ben hop, ça remonte une alerte à l'EDR. Okay. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus fin qu'un antivirus où vraiment c'est des bases de signature. Là, c'est vraiment une analyse comportementale de ce qui se passe sur un ordinateur. En fait, le but, c'est pas de mettre en quarantaine une infection qui est déjà arrivée sur l'ordinateur, mais en gros, de rester alerte sur qu'est-ce qui se passe à n'importe quel moment sur mon ordinateur, potentiellement en tâche de fond.
Et tu peux cumuler en fait des conditions et éviter d'être submergé d'alerte, parce qu'en général, le problème, c'est rarement de pas détecter qu'il y a un problème, c'est plutôt de détecter beaucoup trop de choses en même temps. Et ouais, là, du coup, avec cette finesse-là, tu peux avoir vraiment du conditionnel sur beaucoup, beaucoup de facteurs, comme tu disais, avec des délais à partir desquels ça se déclenche, etc.
Ouais.
Et du coup, en fait, tu en gros, très concrètement, pour savoir comment ça se passera en entreprise, parce que je dis ça parce que j'ai jamais vraiment été dans des boîtes, mais en gros, il t'aurait ta console, ton dashboard, où ta notification apparaîtrait, c'est ça?
Ouais, exactement. Et sauf que dans une entreprise, il y a un service, ça remonte à un service. C'est pas l'utilisateur, il y a une pop-up en mode, il y a quelque chose qui a été téléchargé. Ouais. Ça remonte au service sécurité de la boîte. Et en fait, c'est une solution qui est connue depuis 2013 dans les boîtes. Mais en fait, alors. Certes, c'est pas nouveau, donc je disais ça existe depuis 2013, mais ce que je disais, c'est que jusqu'ici, en fait, c'était réservé aux entreprises. En tout cas, moi, je le pensais. C'est des solutions qui coûtent des milliers, voire des dizaines de milliers par an. Il faut savoir qu'il y a des équipes dont c'est le travail d'analyser tout ce qui se passe sur Internet et sur les ordinateurs pour mettre à jour les règles qui sont dans un EDR. C'est ce qu'on appelle des gens qui travaillent dans des SOC, par exemple. Bref, et parfois, on externalise le SOC. Donc, par exemple, Microsoft a sa solution qui s'appelle Defender for Endpoint. Je dis Microsoft, mais il y en a plein, Kaspersky. Tous ces grands de la sécurité ont des solutions et ça coûte des milliers et des dizaines de milliers par an, et c'est vraiment à destination des entreprises et même plutôt des grandes entreprises. Typiquement, nous, quand on essaie à la Micor, on n'a pas d'EDR. mais en fait, et c'est ça qui est incroyable, j'ai découvert grâce à une vidéo de John Hammond, qui est un youtubeur cyber américain, je crois.
Ouais.
Un petit doute sur le canadien, américain, anglophone, mais je crois qu'il est américain. Et en fait, j'ai découvert un outil qui est gratuit et qu'on peut installer sur son PC, et que du coup, on va avoir la petite notif sur son propre PC pour savoir ce qui se passe sur son ordinateur. Ça s'appelle Aurora Light de Nextron System. Et en fait, comment ça marche ? Ça marche grâce à des règles Sigma. En gros, les règles Sigma, c'est un mec très réputé en sécurité qui s'appelle Florian Roth. Okay. Qui est vraiment un ponte suivez-le sur Twitter si ça vous intéresse. Il s'est dit, on va essayer de normaliser comment on fait une règle dans un EDR, parce qu'au début, c'est toujours un peu le bordel. Et donc, en gros, grâce à un dataset de règles open source qu'on peut trouver sur GitHub, que vous pouvez télécharger n'importe où et qui est inclus dans Aurora Light, ça permet d'avoir tout un tas de règles déjà faites qui va flag, par exemple, le nom d'un process.
Okay.
Donc, par exemple, s'il y a un reverse shell qui est lancé, potentiellement en fonction du reverse shell, il peut le détecter. Et vous pouvez créer vos propres règles. Alors vous pouvez créer des règles absolument connes. Par exemple, si tu lances là la calculatrice, ça t'affiche une pop-up.
Une explication. Tu voulais donc, dire ce que t'expliquais, c'est que l'exemple que t'as donné tout à l'heure, il y a une version en Sigma qui dit exactement quand une clé USB est branchée et que dans les 5 secondes il y a un binaire exécuté depuis Internet. Cette détection là, ce comportement, il en existe une version Sigma standard que tu peux charger dans ce logiciel gratuit.
Oui, et s'il y a des comportements qui n'existent pas, en fait, vous pouvez créer vos propres règles,
oui.
Et c'est pas très compliqué. Alors, c'est pas votre grand-mère qui va le faire, mais en vrai, si vous êtes intéressé par la sécu, c'est un peu comme du... J'allais comparer ça à du JSON, mais là, je pense que je vais me faire démonter. Non, mais tu vois,
On est en train de bosser sur une vidéo sur les adblockers, et ça ressemble beaucoup à la syntaxe pour écrire des filtres d'adblocker.
Meilleur exemple. En vrai, ça ressemble trop à la syntaxe d'un filtre adblocker. Et par exemple, ça peut détecter le fait que, imaginons, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir un accès à votre ordinateur, il a lancé un reverse shell. Donc, un reverse shell, c'est tu peux lancer des commandes dans un terminal de ton ordinateur sans que tu le vois. C'est-à-dire qu'il tourne en tâche de fond. Et par exemple, souvent un attaquant, c'est l'exemple très typique, quand il a accès à une machine, il va faire un « who I am », c'est-à-dire « où est-ce que je suis sur l'ordinateur ?» pour savoir où il se trouve.
Quel privilège est-ce que je possède, en gros.
Exactement, parce que lui, il n'a pas accès à l'interface graphique, etc. Il veut savoir un peu ce qu'il en est, où est-ce que je suis tombé.
À quel point il va pouvoir vous défoncer ?
Eh ben, tu peux déclencher une règle qui te fait une pop-up dès qu'il y a un « who I am » qui est fait sur ton ordinateur. Alors, si tu le fais toi-même, ça sera aussi déclenché, potentiellement, sauf si tu l'associes à « ça a été lancé via un reverse shell », etc. Mais du coup, en fait, tu peux de ouf t'amuser avec plein de règles.
Ah ouais, c'est
et
génial.
En plus, avec les règles qu'il y a déjà de base, ça t'apporte une sécurité ça te prévient de 60-70% des risques d'infection et d'attaque. Et donc, en vrai, c'est pas mal. C'est pour un outil totalement gratuit.
Bah, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que le reproche qu'on peut faire à beaucoup d'antivirus, c'est que c'est des énormes machines de guerre où ils te chargent pléthore de fonctionnalités dont t'as potentiellement pas besoin. Et là, ce que j'aime beaucoup avec un système avec autant de finesse, c'est que si toi t'es au courant, en gros, dans la communauté est au courant que pour des attaques relativement avancées, ce comportement existe, à savoir l'attaquant utilise souvent la même commande, le « who am I », eh ben, ça veut dire qu'on peut nous-mêmes utiliser notre connaissance pour créer des alertes hyper spécifiques pour nous défendre. Et donc, j'aime beaucoup cette idée, en gros, que tu peux avoir très peu d'alertes, donc un truc très léger sur ton système, mais qui est super affûté, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a toute une communauté qui s'est créée autour de ces règles Sigma Rules, qui s'est créée pour alimenter la chose. Alors évidemment, Nextron Systems, ils vendent aussi une solution, mais en fait, souvent, c'est des trucs qui deviennent beaucoup plus complexes avec de l'intelligence artificielle qui va analyser les tendances, etc. Et tout. C'est très chouette hein, pour des entreprises, mais en fait, comme tu dis, ça alourdirait un système pour juste une machine ou pour une petite PME. Et en vrai, il y a un autre truc très marrant à faire. Ah ouais, alors ce que j'ai pas dit, pardon, j'ai oublié un petit truc. Il y a un dashboard. Et en vrai, c'est pas évident pour ce genre de truc. Ça peut souvent être des lignes de commande et tout machin. Et là, il y a un dashboard qui s'appelle le Aurora Agent Dashboard, où en fait, tu vas pouvoir paramétrer ton système pour justement est-ce que tu vas avoir une notif toutes les secondes et ça va être trop chiant ou justement l'affiner de fou et mettre à jour tes règles dessus. Donc, potentiellement, pas forcément en éditant un fichier de Sigma ou en tout cas en étant aidé par le dashboard. Donc ça, c'est trop chouette. Et alors, il y a un truc trop marrant à faire. Ouais, tu voulais dire. C'est que vous pouvez, par exemple, télécharger un lolbeans ou un malware, quoi, en gros.
Alors, on t'explique, là.
En vrai, comment on explique lolbeans?
En gros, alors, en fait, la question que j'avais posée juste avant, c'est est-ce que ce dashboard est joli? C'est très important.
On peut montrer une image sur la. Il est. Je dirais pas qu'il est joli.
C'est-à-dire facile à utiliser.
En fait, j'ai vu une preview et je le trouve quand même pas trop mal. C'est-à-dire que pour un outil.
Ah, pour un outil sécu.
Qui est quand même relativement avancé de sécu, etc. Et ben, en vrai, je me voyais bien utiliser un truc.
Ok.
Comme ça
non, mais machine, pour un outil de sécu, il est pas mal.
C'est quand même pas trop mal. Ouais.
Après, c'est pas l'interface site web 2024. Bref.
Ouais. Effectivement, un truc que t'allais expliquer, je crois, c'est que dans la vidéo de John Hammond, il fait une démonstration où il utilise des malwares, donc des payloads, qui sont relativement avancés. C'est-à-dire qu'il fait pas le test de base avec le cheval aussi. De Troie qui a traîné partout dans les endroits les plus sombres d'Internet.
Et où un antivirus aurait la signature, en fait.
Voilà, c'est trop simple, c'est trop facile. Il fait des démonstrations avec des malwares un peu plus avancés, typiquement de type Live Off the Ground. Donc ça veut dire que c'est des binaires qui ne touchent jamais le disque, c'est-à-dire qu'ils s'exécutent entièrement en mémoire, si je dis pas de conneries, et donc concrètement pour l'antivirus, pour la solution de sécurité, c'est beaucoup plus compliqué de s'en rendre compte, de détecter quelque chose, parce qu'il peut pas, il a pas de petite alerte de hook sur le fait que t'as un fichier bizarre qui vient d'apparaître à tel ou tel endroit. Donc c'est du Live Off the Ground et vous me corrigez si je dis de la merde, s'il vous plaît. Et il faisait cette démonstration justement sur Lulbeans, comme tu dis, et il récupérait une détection grâce
de voir si ça détecte ou pas. Parfois ça détecte pas, oui, honnêtement, parce que c'est trop précis.
Compliqué que ça.
Mais ce qui est marrant aussi à faire, et c'est un concept qui a été beaucoup fait sur YouTube, c'est que par exemple vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec ce genre de truc, lancer une machine virtuelle, télécharger plein de malware et de Lulbeans, etc., et de voir comment Aurora va se comporter et voir s'il arrive un peu à mitiger la chose ou pas du tout. On a vu l'interface.
Ouais.
T'as vu?
Non, non, franchement. L'interface est cool. Et du coup, vous l'avez testé?
Alors.
Nous, on a testé le concept. Non, on n'a pas testé.
On l'a pas testé.
Encore.
Ok.
On était, enfin.
Ah, pas encore.
Moi, ça me donne envie, hein. Franchement,
mais en fait,
ça me donne envie d'essayer, là.
Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cas d'usage à installer un système comme ça. C'est déjà, par exemple, si vous avez une petite PME et que vous avez pas du tout de budget à louer à ça, mais que vous êtes un peu conscient que potentiellement, en vrai, aujourd'hui, il y a plein de PME qui se font poun par des choses. Et mais en fait, ça coûte pas. Ça coûte peut-être une journée, le temps d'apprendre un peu à comment faire, l'installer, même une demi-journée, quoi, à l'installer. Mais en fait, vous pouvez mettre ça sur une PME, c'est gratuit. Et en fait, c'est mieux que rien, quoi. Vous avez un EDR qui est en place, et même sans faire des paramétrages de fou, ça peut faire la blague. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est trop bien, et c'est ça qui m'encourage à le faire, c'est que pour te former à la sécu, si jamais potentiellement t'as envie de travailler dans la sécu, je sais qu'il y en a plein qui nous regardent dont c'est l'envie, mais en fait, ça te permet de savoir un peu ce que fait quelqu'un qui travaille, par exemple, dans un SOC,
dans une vraie grande entreprise,
et qui manage un EDR et qui crée des règles. Et en fait, ce qu'il me disait, et j'en discutais d'ailleurs avec Rémi, notre collègue qui a déjà travaillé avec des EDR. Parfois, t'es dans une boîte et il y a une vulnérabilité qui sort sur un logiciel. Et en fait, elle est pas patchée tout de suite. Oui. Et ben, en fait, il y a un trick, c'est que tu peux mettre en place une règle pour faire en sorte, au moins d'être alerté et faire en sorte que la faille ne soit pas activée, enfin, ne soit pas.
Ah oui. Tu peux préemptivement.
Voilà, exactement.
Genre, c'est la grosse panique, mais au moins tu mets un.
En fait, tu crées un pré-patch.
Exactement.
Tu crées un pré-patch et au moins t'es alerté et tu peux agir directement avant que l'éditeur, par exemple, qui n'est pas toi et doit patcher la chose et en fait ça met 2 jours ou 3 jours. Mais en fait, c'est des outils tellement performants et tellement précis qu'en fait on peut faire. Ce genre de choses.
Mais ce qui est difficile quand même, c'est qu'il faut savoir quoi mettre comme condition, quoi.
Oui.
C'est pour ça que t'as les communautés et que tu peux te baser quand même sur les trucs. Ouais. Mais je suis d'accord que c'est à mettre dans la catégorie. Si vous savez un peu ce que vous faites avec votre machine, que l'option antivirus vous casse les pieds, mais en même temps, vous n'êtes pas suffisamment naïf pour vous dire que vous êtes totalement hors d'atteinte. Je trouve qu'il y a, c'est une solution, un entre-deux qui est quand même intéressante.
Et en fait,
t'as quand même un contrôle important sur qu'est-ce qui se passe sur ta machine, quoi.
Et en fait, tu changes un peu de paradigme par rapport à un antivirus où tu pars vraiment dans la détection. La détection engineering, comme ils appellent ça, et en fait tu peux détecter tout et n'importe quoi, y compris pas forcément des choses de sécu, si t'as envie. Mais en fait là, cette solution là, si t'as des besoins comme ça, ça devient honnêtement une solution facile et accessible. Et moi, je connaissais le concept d'EDR, bien que j'en ai jamais manipulé, mais je n'avais pas la moindre idée de me dire qu'un outil gratuit aussi puissant était disponible grâce à John Amon, dont vous pouvez regarder le tuto si vous allez voir un peu plus loin. Franchement, ouais, c'est lui, bon. Il a carrément fait un tuto où il vous montre comment il fait, quoi. Donc c'est un peu un pas à pas et ça permet de se faire la main.
Mais du coup, juste pour la question, en fait, donc si j'ai bien compris, là, on fait que détecter. Mais après, ça te... Parce que les antivirus, en général, quand ils détectent aussi, ils règlent le problème. Là, il n'y a pas
ils te font 15 notifications pour te dire qu'ils ont réglé un problème qui n'est pas vraiment sûr d'avoir existé.
Effectivement. Mais il y a quand même de la rémédiation qui est un peu intégrée à l'outil. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est juste
si, c'est le R de response. En fait, souvent, c'est aussi, et là, ça devient un peu plus complexe, associé à un autre système qui s'appelle un SIEM en français. Et donc en fait, les boîtes, ils interconnectent tout leur outil de management, de contrôle, et ils voient ça. Mais bon, là, je voulais pas parler des SIEM parce que c'est un peu plus complexe.
Ça sera pour un prochain épisode.
C'est ça pour un
Et je me suis trompé, c'est Leave of the Land, pas Leave of the Ground. Mais ça peut pareil.
Je l'avais pas noté, donc.
Le sens est là.
Non, mais voilà, c'est transparent. Très intéressant. Voilà, cool.
Tu vois, ça m'a donné... court, mais franchement.
J'avais juste vu passer le truc, et là, tu as confirmé mon envie d'aller découvrir ce logiciel. Évidemment, c'est sur Windows.
Non, je crois que. En fait, c'est l'interface, c'est en localhost.
Oui, c'est une interface web, mais c'est un outil fait pour Windows à la base.
Mais je crois que non. Je crois que c'est
Attends, faut qu'on le fact-check en direct.
On fact-check, mais je crois que c'est Windows, Linux et Mac.
Les fact-checkers de l'espace peuvent nous dire.
Question.
En fait, sinon la zone commentaire va être envahie de la question. Donc comme ça, on peut pré-shot et y répondre dès maintenant.
Et en fait, il faut juste, par contre, quand tu t'inscris, il faut laisser un mail pour télécharger.
Je suis le fact-checker du futur et je viens vous annoncer que c'est uniquement sur Windows 7 et au-dessus, pas Linux, pas Mac.
Je suis déçu.
Moi, ça m'étonne qu'à moitié. Franchement, c'est tellement spécifique là.
Bah ouais, mais je sais pas pourquoi. Je vais confondre avec un autre outil. Ouais. Mais...
Typiquement, le fait de choper les notifications quand ça a certaines commandes PowerShell, les trucs comme ça, c'est tellement spécial que ça m'étonne pas.
Damn.
Bon.
Ouais.
Damn.
Dommage pour nous.
Parce qu'on est sur Mac.
Ouais, plutôt dans l'équipe.
Bah ouais. Je voulais choper le Windows de.
Non, on a les deux dans la boîte.
On a un Windows où on fait ce genre de bêtises, mais je crois qu'il est en.
Ça.
Il est utilisé.
Très cool. Et bah écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la chronique suivante. Si tu avais.
Ah non, voilà, écoutez.
Et on envoie un jingle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut le kill là. Je sais pas, parce que j'ai
Attends,
pas
compris. Il a tapé une mouche là ou?
Non, je pense.
Bon, ben, on va débug en live. En fait, la backlight, donc la Falcon 9, ne s'est pas allumée, je ne sais pas pourquoi, et ça a donné des petits problèmes de king. Oh, sur le live, vous l'avez sans doute vu, dans le bonnet de Mathieu, ça clignotait un petit peu.
C'est pour ça qu'il faisait que parler de mon bonnet.
Mais on va pouvoir, on refait les rendus après, donc c'est pas grave.
Je me disais, pourquoi ils s'en foutent de mon outil?
Qu'est-ce qu'ils ont avec le bonnet?
D'accord.
Mais ce sera réglé pour YouTube, c'est pas grave. Ok, alors. Je vous l'avais promis, c'est ma chronique IA. Voilà, en fait, on a arrêté de spécifier, mais
les gens adorent, dans YouTube.
Voilà. Dans le planning, en fait, j'ai mis à chaque émission.
J'ai eu IA.
Ma chronique IA, voilà. Si vraiment un jour il n'y a plus rien à dire, je m'arrêterai, mais ce jour-là n'est pas arrivé. Exactement. Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me frustre un peu, malgré toute la hype autour de l'IA, c'est que je m'attendais à ce qu'on ait un Jarvis plus tôt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans Iron Man, le mirage d'avoir cet assistant qui sait tout, qui est là constamment avec toi et qui fait que tu passes 10 fois moins de temps à faire des trucs chiants dans ta vie, je pensais qu'il allait arriver plus vite.
Ouais,
ok. On est quand même dans la voie.
Ouais, mais non, mais on est un an et demi après.
On patine un peu, quoi.
Exactement. On est un an et demi après GPT-4, à peu près.
Ouais.
Je pensais que il y a un an, il y a 6 mois, ou là maintenant, on aurait un assistant de ce niveau-là qui aurait remplacé soit nos smartphones ou au moins nous accompagnerait à peu près tout le temps dans notre vie pour toutes les tâches un peu ingrates, réserver des trucs à droite à gauche, parler, gérer nos conversations, nous faire des plannings, gérer le calendrier, j'en sais rien, mais qu'on est tous l'équivalent d'un assistant constamment pour nous, quoi. Or, ça n'est pas arrivé. ça n'est pas arrivé. Actuellement, on en est même encore relativement loin. Même si, quand même, ça se rapproche un peu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui manque pour qu'on ait un Jarvis. Et la première chose que je veux vous montrer, c'est une annonce très récente qui a été faite lors du CES d'une entreprise qui s'appelle Rabbit, qui a sorti un device, un appareil qui s'appelle le R1. Je vous propose qu'on regarde le trailer. C'est une toute petite boîte orange comme ça. Alors, ils font les trucs à l'Apple où on voit rien dès le début. Voilà. C'est une petite boîte toute mignonne avec une sorte de petit lapin. Pas de bouton. Pas de, voilà, ce n'est pas un appareil complexe à utiliser, visiblement. On peut entreapercevoir des microphones ici. Une caméra qui peut se retourner dans les deux sens. Et une sorte de bouton qui semble être l'unique moyen d'interagir avec l'appareil. Et pour cause, il semblerait que ce soit designé pour être le futur Jarvis. C'est la plateforme qu'ils annoncent actuellement et qu'ils espèrent petit à petit vouloir transformer en assistant ultime qui pourra tout faire pour nous. Je trouve justement, on va rentrer dans le détail et vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc-là, mais je trouve qu'ils ont une approche très intéressante parce qu'elle est réaliste. Ils promettent pas la lune. A priori, on va pouvoir mettre la main sur ces appareils pour de vrai. Ça va pas cracher dans un mois. Et on va pouvoir vraiment faire des trucs avec dans peu de temps. Encore une fois, ça n'est pas encore Jarvis. Hein. Je vais vous expliquer.
Et en plus, c'est pas très cher, il me semble. C'est genre 300$?
C'est vendu actuellement à 200$. La raison pour ça, c'est qu'en fait, il se passe pas grand-chose dessus. C'est principalement un micro, un haut-parleur pour répondre, un petit écran pour envoyer un peu des signaux, faire des petites têtes avec le lapin probablement, et la caméra pour interagir avec le réel, etc. Donc, sur l'appareil en lui-même, il se passe pas grand-chose. C'est principalement une interface vers les serveurs de Rabbit qui vont faire tout le traitement un peu lourd et intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais garder ça pour la fin, Attendez, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux.
Zut. Retrouver les pinceaux.
Ok. Ils ont commencé la conférence avec le même avis que moi, à savoir, actuellement, on a l'état de l'art, on va dire, pour des assistants avec de l'IA, est plutôt pas ouf. Si, par exemple, actuellement, vous allez sur ChatGPT pour utiliser un plugin d'une compagnie aérienne, il va vous faire des suggestions pour votre prochain vol en Alaska, mais il va pas pouvoir réellement faire la réservation pour vous. Les chatbots, comme ça, en fait, ils sont super forts à comprendre les intentions, mais pas du tout, actuellement, à déclencher des actions. La première tentative qui a été faite il y a quelques mois pour régler ce problème-là, c'est les agents. On en avait un petit peu parlé. Ça a été très hype, notamment dans la communauté open source. Et en gros, le principe, c'est de faire parler entre elles des personas virtuels. C'est un peu un hack, d'une certaine manière, pour utiliser les capacités conversationnelles des agents sans avoir nous-mêmes à faire la discussion en haut. C'est-à-dire qu'on...
Faire l'intermédiaire.
Exactement. On les laisse parler entre eux. Ça fait des démos assez marrantes, par exemple. Celle-ci que j'ai vue sur Twitter est intéressante. Ça utilise un projet très cool qui s'appelle Crew AI, qui est un des plus sérieux dans ce domaine. Et la personne que vous allez voir a créé une sorte d'équipe virtuelle qui est chargée de générer des posts Instagram pour une startup qui s'appelle Curio. J'ai découvert ça. C'est une boîte qui fait des jouets. Avec dedans
to copy in there are three options of photograph is that we can use and we can basically copy and paste these ones on Midjourney. So let me run that real quick and we can see what we get out of
it. All right, you're going to really love this one. This is a crew of AI agents that is this.
Ça, c'est un agent qui travaille avec Midjourney.
Exactement. Donc là il présente son système. L'objectif de son équipe, c'est de générer donc des posts Instagram pour une start-up qui existe vraiment et qui s'appelle Curio. Je vais vous montrer le site. Cette boîte fait des jouets pour les enfants avec un LLM à l'intérieur. Donc en gros, c'est une peluche. C'est la peluche du futur finalement. Et au lieu de répéter en boucle un truc qui te pète le crâne, t'as juste un vrai LLM à l'intérieur.
C'était sûr que ça allait.
Bah, c'était sûr.
On n'y a pas pensé.
Mais c'était évident que ça allait arriver. Et ils ont un prisme intéressant qui est vraiment en mode santé mentale, enlever les écrans de vos enfants et donner-leur des jouets qui sont pas chiants mais qui ne sont pas non plus des écrans. Tu vois, il y a un truc intéressant.
Ok.
Et en plus, c'est mignon.
Ah ouais, par contre, c'est super mignon.
La com est très très bien bossée. Et bah, juste en comprenant juste avec le nom de la boîte, ils sont capables de son équipe d'agents avec des outils de scrapping, des outils de recherche Google, etc. Ils vont faire des recherches sur cette boîte-là, sur ses compétiteurs, tout seuls. Hein, ils ont pas été instruits pour faire ça. Ils vont scraper leur site web, réfléchir à une strate de com en fonction et rédiger des prompts pour Midjourney pour faire des posts Instagram et générer les descriptions des posts en question. Si vous voulez voir, à la fin, je t'ai mis le résultat en image dans le... Ça va arriver. Le suspense est à son comble. Les images, du coup, générées, elles ressemblent à ça.
Ok.
Et la description qu'il donne, c'est libérer la créativité de votre enfant avec Gabo. Dites adieu aux écrans et faites place au jeu dans le monde réel. Hashtag je sais pas quoi. Et voici les images. C'est pas mal.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, il a bien compris le positionnement un peu anti-écran de la start-up. Et voilà, les 8 assistants. Donc, tu sais, il y avait un project manager, ils partent dans des délires un peu dingues. Mais globalement, ça marche, tu vois. Ils font leur discussion entre eux. Ils ont réussi à produire un résultat tout seul qui correspond à la tâche qu'on leur a donnée. Mais ce serait mentir que de dire que c'est une révolution. Genre, comme souvent, la démo est marrante, mais en fait, tu passes aussi beaucoup, beaucoup de temps à débugger ton système. Et pour un truc pas révolutionnaire comme ça, en fait, c'est super long. Ça met très longtemps, ça génère des milliers de tokens pour arriver à ce résultat.
Ah oui.
Et en fait, c'est un coût. C'est non négligeable. Alors, sauf que là, il tournait en local. Donc, en fait, ça te coûte que ton électricité. Ouais. Mais la preuve que les agents, c'est pas encore au point, c'est que depuis 6 mois qu'ils existent, personne n'a montré vraiment de démo convaincante de fou. Toutes les boîtes ne sont pas comme des folles à implémenter ça partout.
C'était un peu la folie quand ça a été annoncé. Comme, et en fait, ça...
Comme d'hab. En gros, on attend de voir.
Ouais,
attend de voir. Et surtout, en fait, les agents sont limités par un très gros problème. Les LLM ne savent pas appuyer sur des boutons. je rigole même pas, je suis très sérieux. En fait, quand on se renseigne, c'est un des plus gros problèmes actuels qui empêche qu'on ait un Jarvis. Et c'est loin d'être une question simple à régler en réalité. Je m'explique. Si on a envie que ChatGPT commande donc un billet d'avion, en fait, tel quel, il peut pas le faire comme nous. Il est fait pour comprendre et générer du texte, donc pas pour lire, tu vois, des screenshots et bouger une souris. Et pour cette raison, les agents et les plugins pour ChatGPT qui veulent interagir avec des outils extérieurs, ils doivent passer par des API. Ce sont donc des interfaces officielles prévues par les développeurs de services web pour les programmes informatiques. Donc, par exemple, pour les humains, il y a Twitter Web avec des boutons et des menus. Et pour les programmes, il y a l'API Twitter qui utilise des données textuelles structurées et donc prévisibles par un programme et un LLM. Derrière, c'est évidemment le même serveur, c'est la même base de données, mais l'interface pour y accéder, c'est pas la même. Même chose sur l'ordi, en fait. On peut activer l'option du dark mode en cliquant dans les paramètres de la machine, mais pour qu'un LLM le fasse, lui, il va devoir générer la ligne de commande qui permet de faire l'action. C'est toujours pareil. Et si vous découvrez le concept des API comme ça, vous êtes sûrement très excité parce que vous vous dites... Attends, mais ça veut dire que quasiment tout a une API. Donc, on peut en fait écrire du code qui interagit avec n'importe quoi. Donc, ChatGPT plus API égale Jarvis, en fait. Paf ! C'est de la magie. Sauf qu'en fait...
Il suffirait d'avoir, finalement, la documentation de toutes les API de la Terre.
Exactement.
Et c'est bon.
Et c'est bon.
En fait.
Sauf qu'en fait, la réalité est beaucoup beaucoup moins rose. Pour trois raisons principales. Déjà, depuis que tout le monde a compris que pour faire des LLM, il suffit de piquer le contenu des plateformes concurrentes, beaucoup de sites comme Reddit ou Twitter ferment leurs API. Ou alors, ils les rendent extrêmement chers. Oui, c'est pour ça.
Ok.
En gros, la valeur maintenant est dans la donnée. Et donc, tu la protèges.
Donc, tu protèges ta donnée.
En enlevant ton API. Tu mets des captchas partout. Bref, tu empêches les robots d'accéder à ton contenu. Deuxièmement, énormément de services n'ont juste pas d'API, en fait. Genre, les sites de l'État, les messageries instantanées, les sites où il faut faire des paiements en général, etc. Bref, exactement ce qu'on voudrait déléguer à un assistant, en fait.
Ah oui, on peut pas faire acheter, enfin, mets dans le panier ou payer le panier.
Mets les codes de la carte.
En API, quoi.
En fait,
ça dépend des services, mais...
Les sites qui n'ont pas d'API et les sites dont tu veux te débarrasser et les filer à un assistant, ouais, c'est souvent les mêmes. Et enfin, quand bien même en fait ce serait le cas, pour que votre Jarvis marche, il faudrait commencer par créer un compte développeur sur l'ensemble des sites qu'il pourra utiliser, demander une clé d'API, mettre votre carte bancaire. Donc en fait, pour le truc one shot, genre le site des impôts par exemple, tu vois, dont tu voudrais bien t'en passer. Bah en fait, tu vas juste perdre du temps à setup le système pour qu'il lui parle.
C'est vrai que c'est une fois par an.
Bah exactement, tu vois.
Oui, donc oui.
C'est plus court de le faire. Donc en fait, vous l'avez compris, en attendant l'interface universelle qui n'arrivera honnêtement jamais en fait, il n'y a pas de meilleure solution que d'apprendre au LLM à utiliser des interfaces d'humains. Oui. Juste, il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix.
C'est tellement paradoxal.
Mais oui, c'est absurde.
Genre, on a un système informatique, les API, c'est super bien réglé, tous les développeurs utilisent ça, mais les LLM peuvent pas, quoi.
C'est absurde, mais c'est comme ça. Alors, comment faire? La première tentative, c'était de donner, par exemple, le code source de la page web au LLM et de lui demander le nom du bouton sur lequel il voulait cliquer. Et après, on injecte le clic. Bon, spoiler, ça marche pas super bien. La deuxième tentative est déjà plus intéressante. L'idée, c'est d'utiliser les nouvelles capacités de vision des modèles. On fait des modèles qui sont maintenant hybrides, multimodaux. Et donc, on se dit, ils peuvent un peu plus comprendre les interfaces qu'avant déjà, a priori. Je vous montre une démonstration du modèle qui fait... je vous montre une démonstration d'un projet qui fait ça le mieux actuellement. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Ça s'appelle Self-Operating Computer. Actuellement, c'est une petite interface graphique comme ça, avec laquelle on discute. Là, on lui demande, est-ce que tu peux faire un truc dans Google Doc? Donc, tu ouvres Google Doc et écris un poème à propos de l'open source. Là, le modèle, ce qu'il est en train de faire en tâche de fond, c'est de prendre des captures d'écran répétées, de réfléchir à quelle action il va faire. Donc là, par exemple, il a cliqué sur le bouton Chrome. Il a détecté qu'il y avait un input en haut. Il a déplacé la souris.
Donc là,
il a input du texte dedans. Là, nouveau screenshot. Où est-ce que je dois cliquer? Ok, il a vu le blank document. Il clique dessus. Il comprend qu'il a une interface d'écriture. Il clique. Il écrit le texte qu'il a généré lui-même.
Ok.
Ah voilà.
Ouais. Franchement, c'est très stylé. Et en fait, là, il faut comprendre que les souris, c'était pas un humain qui...
Voilà.
On voit pas sur l'écran, mais en gros, c'était automatique.
Tout ça a été fait automatiquement, sans toucher au clavier et à la souris. L'humain juste était spectateur. La seule instruction, c'était ouvre Google Doc et rédige un poème dedans.
Et derrière, ça utilise GPT Vision ou des choses comme ça?
Et alors, justement, comment ça marche? Parce que si vous avez déjà essayé de faire ça vous-même...
J'allais te dire que c'est super compliqué déjà.
Exactement. Quand toi, tu veux faire du auto-hotkey, par exemple, ou des macros... Voilà, tout le monde qui a déjà essayé de faire ça sait que c'est pénible, mais vraiment très pénible. Donc voir ça, ça fait baver. Alors, comment est-ce que ça marche? Effectivement, derrière, ça utilise un modèle multimodal, le plus performant qui existe actuellement, à savoir GPT-4 Vision. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même plus compliqué que prendre une capture d'écran et lui demander une position en XY sur laquelle il faut cliquer avec la souris. Telle quelle, ça ne marche pas. Ces gens ont été obligés de développer des patchs, comme très souvent avec les modèles de langage, tout comme on fait des chain of thought et on demande 10 fois de revenir sur son premier résultat. Là, c'est un peu la même chose. Ils ont dû inventer des systèmes en plusieurs étapes. où ils vont donner une première capture d'écran en demandant qu'est-ce qui se passe à l'écran, quelle est la zone qui est probablement la plus intéressante, est-ce que c'est en haut à gauche, en haut à droite. Après, ils vont découper l'image, lui refournir et lui redemander sur quelle zone est-ce que le bouton se situe, etc. Une sorte de dichotomie, alors en réalité c'est un peu plus intelligent que ça, mais une sorte de dichotomie de l'image pour arriver à la fin péniblement à savoir à quel endroit la souris doit se positionner pour cliquer sur le bouton ou renseigner un champ de texte.
Un peu laborieux.
En gros, c'est laborieux. Mais la raison principale pour ça, c'est quoi ? C'est que ce soit avec du code source ou que ce soit avec des captures d'écran, on est en train d'essayer de prendre des modèles de langage pour leur apprendre des interfaces. On est en train de prendre des modèles de multimodaux pour comprendre des images, donc plutôt des photos en général. Et là, on les utilise pour faire des actions. Enfin, en gros, on travestit un peu ce pourquoi ont été faits certains modèles. Et donc, face à cela, il y a pas mal de gens qui proposent des idées alternatives, notamment le Rabbit R1, tout, sur lequel je vais revenir juste après. Un truc assez intéressant qui est sorti récemment, par exemple, c'est un dataset de l'entreprise Hugging Face qui a généré, je ne sais plus combien exactement, il faudrait vérifier, mais des centaines de milliers de captures d'écran, d'interface et du code qui leur est associé. Ce qui est intéressant, c'est que ces données, elles sont synthétiques. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des modèles de langage d'écrire du code. Ouais. Après, ils ont fait une capture d'écran de ce que donnait ce code. Ce qui leur a permis comme ça de générer des données synthétiques en immense quantité. Et d'ailleurs, on pense que c'est peut-être l'avenir, en fait, les données synthétiques pour générer des quantités de données dont l'humanité ne dispose pas.
Alors, j'ai à moitié compris le concept de données synthétiques.
Ok, en gros, Hugging Face, ils avaient envie de créer un dataset super grand pour apprendre au modèle c'est quoi le lien entre du code et une interface web.
Ouais.
Comment tu fais ça ? Bah, t'as besoin de trouver beaucoup, beaucoup de données, beaucoup d'exemples de code et de l'interface en PNG associée, tu vois, ou en vecteur, peu importe le modèle, enfin le format. Comment tu trouves cette base de données ? C'est pas si simple d'avoir un truc vraiment clean, de qualité, qui marche bien.
Déjà, en fait, ce qu'il y a dans les vraies données, c'est que souvent, elles ne sont pas standardisées. Tu vois, du coup, c'est aussi compliqué de pouvoir... dans les bases données, ce qui est compliqué aussi, c'est d'arriver à donner du sens un peu à la donnée. Tu vois, et puis les gens n'ont pas forcément codé pareil. Enfin, voilà.
Bah, c'est ça, genre...
Les gens n'ont pas codé pareil.
Un million de manières de faire la même maquette.
Exactement. Ouais. Et du coup, ce qu'explique Mickaël, c'est que ce qui est peut-être la next step, en fait, dans l'apprentissage des IA, c'est de pouvoir générer des données donc qui ne sont pas de sites qui existent, si tu veux.
Okay.
Mais c'est des fausses données qui sont générées par des IA pour entraîner des IA.
Tu standardises la donnée d'une manière que toi, tu as envie par une IA.
Tu crées 200 000 exemples hyper qualitatifs d'un site web, par exemple codé avec Tailwind ou des trucs super précis, et le code associé. Et ça pour ceux qui réalisent la valeur que ça a une base de données qualitative, c'est une dinguerie, c'est vraiment fou. Ouais. Donc ça, c'est un premier truc intéressant qui peut laisser présager qu'on ait des améliorations prochaines sur la compréhension des interfaces et le fait que voilà on ne torde plus des modèles faits pour écrire des poèmes en modèle de compréhension d'interface quoi. Et donc ça c'est un premier truc intéressant. Et la deuxième boîte que j'ai vue qui parle de ça précisément, c'est donc Rabbit. Dans leur conférence, ils expliquent notamment qu'ils sont en train de travailler sur ce qu'ils n'appellent plus un LLM, donc un large language model, mais un LAM, large action model. Et leur idée, c'est de dire, les premiers modèles sont faits pour générer du texte, les seconds seront faits pour agir. Et donc, par définition, intégrer dans leur cerveau, entre guillemets, la notion d'interface, de boîte avec des boutons, des formulaires, des choses comme ça. Quand on y réfléchit, si ça se trouve, si on met toute notre énergie juste à résoudre ça, on pourrait faire mieux. Le truc, c'est que ils ont annoncé ça avec beaucoup de promesses. Et franchement, si ça se produit, ça fait kiffer. Par exemple, ils expliquent que on pourrait apprendre des trucs à notre assistant. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a dit. Jarvis n'est pas prêt pour plein de raisons. Savoir s'interfacer avec des logiciels très complexes, avoir une gestion de la mémoire aussi qui soit très long terme, etc. Bon, pour plein de raisons, Jarvis n'est pas prêt.
En fait, c'est un problème d'interface, quoi, tout
exactement.
Simplement.
Exactement. C'est un des problèmes, on va dire. Mais voilà, en gros, pour l'instant, c'est pas possible. Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est que, en attendant, ce qu'on va faire, c'est au moins permettre d'apprendre très facilement des suites d'actions au modèle. Et donc, avec ce LAM, ce qu'ils ont teasé, c'est un mode apprentissage. Donc, en gros, tu tirais sur ta page web ou sur ton application, tu ferais ta série d'actions, donc tu remplirais une fois tes impôts et c'est tout. C'est tout, t'as plus jamais à le refaire de ta vie parce que ton modèle aurait appris.
Tu le prends par la main une fois, quoi.
Exactement. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez intelligent pour faire tout seul de A à Z, mais il est assez intelligent pour généraliser ton action, même s'il y a une pop-up de cookie qui vient la prochaine fois, il va réussir à la contourner, contrairement à ton script auto-headkey fait main. et surtout, ça va te prendre 10 minutes de l'enregistrer, donc tu devrais avoir un réel gain de temps. Ça, c'est la promesse qu'ils font, et c'est ce qui intéresse le plus en réalité, parce que leur appareil est sympa, voilà, ils savent faire du beau hardware. Je crois qu'ils faisaient de l'audio avant, ils viennent de...
Ils ont un partenariat avec Teenager Engineering, je crois. Qui font des trucs
très luxueux,
très jolis, luxueux,
sympa. Et donc ça plaît pour d'autres raisons, notamment il y a le micro est désactivé d'un point de vue hardware tant que tu n'as pas appuyé sur le bouton push to talk. Donc la caméra, pareil, tu peux la cacher physiquement. Donc ils ont vraiment une approche relativement saine de ce qu'ils souhaitent faire avec. Il y a quand même des grosses questions sur qu'est-ce qui va sur leur cloud, qu'est-ce qui reste sur ta machine, etc. Comme d'hab. Mais bon. Mais ce qui intéresse le plus en réalité, c'est vraiment ce mode apprentissage, parce que c'est là que tout se joue en gros, si on veut un jour obtenir un Jarvis. Et pour terminer, un des trucs que je vais évidemment suivre, c'est un mec qui sur Twitter s'est dit c'est cool votre truc, mais franchement, j'en sais pas si. Sur le papier, c'est pas si compliqué de refaire le même appareil avec que des trucs open source sur un Raspberry Pi, par exemple. Et donc, c'est ce qu'il disait. Tu combines un Mixtral, par exemple, Linux, un Whisper pour faire la transcription. Ouais. Bon, si vous ne connaissez pas tous ces mots, dites-vous que c'est juste toutes les briques de transcription de speech-to-text, de text-to-speech, de modèle local qui permettraient d'avoir l'équivalent sur... Bah, juste un device que vous feriez vous-même à la maison, open source, que vous pourriez modifier. Donc c'est ça qui va être compliqué pour une boîte comme Rabbit. C'est que voilà, la réponse va être très très rapide de la communauté open source.
Même d'autres acteurs. D'ailleurs.
Oui, d'autres acteurs.
Genre un Microsoft ou un...
Je pense que leur chance de survie, en fait, ce serait typiquement si ils avaient une approche un peu comme la Pebble Watch dont on avait parlé il y a un certain temps, et qui d'entrée de jeu misent tout sur le hardware et disent que ben voilà, faire de l'open source sur le hardware, on sait que ça n'existe pas. C'est super super compliqué.
Ça existe.
Donc voilà. Je crois qu'actuellement, je suis même pas sûr que t'aies un device qui soit entièrement en open source, par exemple, tu vois.
Oh si,
un
quand
device
même.
Hardware.
Mais pas un device très connu, quoi.
Oui voilà, pas un ordi, quoi. Enfin voilà, par exemple. Bref, et moi je leur donne des chances. Si jamais d'entrée de jeu ils disent nous on vous file le hardware et vous pouvez l'interfacer avec ce que vous voulez, donc par exemple si vous pouvez avoir une station chez vous genre un Mac Mini ou je sais pas moi une machine fait maison qui sera votre hub, dessus vous utiliserez vos propres outils open source potentiellement, juste l'appareil que vous aurez toujours sur vous qui discutera avec votre maison, et ben ce sera un Rabbit R1. Ça j'y crois. Mais la version uniquement cloud, super fermée, je pense que je ne sais pas si elle a un avenir radieux. Ouais. À voir.
À voir.
Voilà.
Mais peut-être qu'il y a aussi une version en interne, en fait, dans les puissances de calcul vont changer, etc. Et qu'en fait, il n'y aura pas besoin de contacter un ordinateur ou un serveur pour traiter la donnée IA. Alors, je sais que ce n'est pas tout de suite, mais il y a des choses qui se font et tout. Peut-être qu'en fait, ça sera soit intégré à nos téléphones, soit dans un... En vrai, il est super stylé, leur device. Mais, ouais. mais
c'est pour ça que j'imaginais...
Soit stand-alone, en gros.
C'est pour ça que j'imaginais... Enfin, oui, en théorie, mais je pense quand même qu'on va atteindre un plafond sur la capacité de certains modèles. Typiquement, le fait de... Ah, quoique, non, mais t'as peut-être raison. Parce que actuellement, pour avoir un assistant qui fonctionne à peu près, il faut au moins 7 milliards de paramètres. Donc, si jamais l'appareil est un peu plus gros, que t'as une bonne batterie un peu mastoc quand même parce que ça consomme. Hein. Ouais. Dans ce cas-là, ça peut marcher. Mais je sais pas pourquoi je crois pas mal à une sorte d'hybride où ouais. en fait ta grosse station à ta maison, c'est ta puissance de calcul ouais. Et ton appareil sur toi, il est fait pour la batterie et les capteurs. Et c'est tout. Ouais. Et discute avec ta maison. Je sais pas pourquoi, okay. j'y crois pas mal aussi, mais on verra.
On verra.
On fait nos théories et on verra ce qui se passera.
Après, juste pour ajouter à ce que tu disais, par rapport à la difficulté de faire un Jarvis, parce que du coup, effectivement, soit il te faut toutes les API, soit, enfin, voilà, c'est super compliqué à faire. Je pense qu'effectivement, pour le particulier, c'est super dur à faire. Par contre, moi, j'ai exemple au taf d'outils qu'on essaie de faire pour les entreprises.
Okay.
Où on essaie de faire des assistants comme ça, un peu Jarvis-like, mais qui sont très orientés pro. Et c'est quand même, ça reste quand même super cool. On en est au début, bien sûr, où tu peux connecter comme genre une quarantaine d'applications différentes avec lesquelles tu travailles, genre par exemple tes mails, ton Slack, une base de données potentiellement de ton entreprise et tout ça. Et en fait, il y a quand même ces assistants là qui existent aujourd'hui, qui peuvent compiler un peu toutes les données de ton entreprise et tous les échanges que t'as eu et toutes les archives, tu vois, qui a la connaissance globale de ton entreprise. Et on tend à faire des intelligences comme ça qui peuvent au moins être des assistants dans le monde du pro. Mmh. Et je pense qu'on en est plus proche dans le monde du pro que dans le monde du particulier. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en parle pas tant que ça, enfin, je veux dire, en dehors du monde de l'entreprise. Mais dans le monde des entreprises, ça commence à arriver à grands pas. Donc je pense que ce sera...
Et quand tu penses, ça a du sens parce que tous les services que tu as mentionnés ont des API pour le coup.
Ouais.
Et si c'est ton entreprise qui centralise la complexité d'aller se plugger partout, qui fait la tuyauterie en fait.
Ouais.
Et eh ben, ça a plus de chances d'arriver.
Bah, sans vouloir faire de pub.
Si,
sans vouloir faire de pub, mais donc à Amazon, on a Amazon Q, qui est du coup un nouveau service où on essaie de tout connecter. Donc, en fait, on te donne la possibilité de connecter tout ça. Oui. Et en plus de ça, c'est connecté à ton cloud. Du coup, il y a ça.
Est-ce que tu as vu, du coup, un moment, une discussion, un échange où tu as été halluciné? De cette capacité-là à interconnecter beaucoup d'API ou alors est-ce qu'on est dans une situation où le problème de l'API est réglé mais en fait il y en a d'autres qui sont encore assez limitants?
Le problème de l'API est réglé à ce niveau-là. Après, comme moi, je travaille pas au sein d'une entreprise, enfin autre que Amazon. Ouais. J'ai pas encore vu un exemple concret de connexion de plein de services différents qui pourrait faire en sorte que, bah, du coup, t'as réellement un assistant, qui pourrait te dire plus ou moins n'importe quoi sur les objectifs de l'entreprise, avec qui t'as parlé de ça, qui a eu l'idée de faire ça.
Ouais. Ouais.
J'ai pas encore, si tu veux, vu cet exemple-là, mais je sais que c'est la promesse. Et que c'est l'objectif, je suis impatiente de voir des clients.
Ouais.
En fait, c'est parce que c'est nos clients qui les utilisent et qui vont arriver à faire ces exemples-là. J'en ai pas encore vu.
Okay.
Mais ouais.
Parce qu'il est possible que ce soit qu'un des. Enfin, aujourd'hui, j'ai mis le focus sur l'interface, mais c'est probable. Il y a potentiellement des prochains épisodes à faire. On en avait un peu parlé déjà, Mathieu, mais c'est probable qu'il y ait d'autres volets qui soient non résolus pour obtenir Jarvis. Typiquement, j'ai très rapidement mentionné la mémoire, mais un assistant n'est intéressant et bon que si il a une large mémoire et qu'il sait récupérer, comme nous on le fait en fait avec notre cerveau, le bon contexte pour la bonne tâche.
Ouais.
Et il y a des tentatives là-dessus, mais je sais que c'est un des autres champs un peu non résolus. Donc
j'ai un élément de réponse à ça. Ouais. En plus des agents, du coup, on a une techno qui s'appelle les RAG, donc les Retrieval Augmented Generation, où du coup, si on veut vraiment générer cette capacité de mémoire, il faudrait stocker, si tu veux, dans une base de données externe, tous les échanges que tu as eus, tous les précédentes données, si tu veux, aux connaissances que l'IA devrait avoir pour pouvoir répondre à ta question. Et donc ça, c'est une partie de la réponse, je pense. Et donc les RAG plus les agents, plus les API connectées avec toutes ces... Ça pourrait être le début de quelque chose.
Ça pourrait.
Comme Jarvis. Mais après...
Mais les RAG, c'est de la génération... Enfin, c'est de récupérer dans le contexte du chat des données pertinentes, des données intéressantes. Typiquement, si vous utilisez Perplexity ou des genres de moteurs de recherche alternatifs, c'est ce qu'il faut en réalité avec de la donnée de qualité qui vient d'Internet. c'est un domaine vachement en recherche du coup,
ouais.
et dont on n'est pas encore complètement maître. C'est-à-dire
non,
que
c'est sûr, ouais. Ouais, ouais.
Parfois ça marche super bien pour certaines choses et parfois on se rend compte que la tâche est beaucoup trop complexe et c'est pas stuffer rajouter des trucs dans le contexte qui va fonctionner. Et parfois on se rend même compte, on dérive un peu, c'est pas grave, ça ne sera pas dans la VOD, mais on se rend même compte que un document qu'on va rajouter dans le contexte fout complètement la merde. Et va, comme ce sont des modèles qui sont super dépendants au moindre token qui les précède,
ouais.
Parfois tu vas pourrir ta réponse parce que tu lui as donné des infos qu'il fallait pas. Il y a un truc avec le cerveau. En fait, ce qui est fascinant, c'est que plus on bosse sur ça, plus on découvre ça, plus on réfléchit au cerveau humain, en fait.
Ouais.
Parce que on réalise que nous, on a pas du tout constamment tout ce qu'il y a dans notre cerveau, dans notre mémoire immédiate.
Ouais.
On a une capacité, on a comme des chemins et des connexions, et une capacité à aller sélectionner pile la bonne info, la bonne donnée, la bonne mémoire pour la bonne tâche. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été encore débloqué.
Ouais, c'est des tâches qui sont super complexes. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait, comme tu disais, des chain of thoughts avec des agents qui peuvent, après eux, essayer de retrouver la bonne information dans la donnée. Mais c'est vrai que c'est des... Ouais.
En tout cas, le jour, on y arrive.
Ouais.
Sachez que vous serez les premiers avertis.
Ouais.
Et on vous fera 12 chroniques dessus. Mais d'ici là, je vous en propose une nouvelle avec Mathieu, qui ne parle plus d'IA. Vous allez pouvoir respirer si ça vous énerve. Et de quoi vas-tu nous parler, Mathieu ?
Et on va parler de jeux vidéo et de monétisation un peu...
bizarre.
Bizarre. Shady, le mot est peut-être un peu fort.
Toxique.
Toxique de certains jeux vidéo.
Et c'est parti.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Bon, tout le monde a déjà joué à un jeu vidéo, que ce soit des gros triple A sur PC ou à un jeu mobile genre Candy Crush. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la face sombre des jeux vidéo, leur monétisation. Le temps où un jeu coûtait forcément 40-50 balles est révolu depuis longtemps. Bon nombre de ces jeux sont désormais gratuits. Mais vous allez voir que certains de ces jeux se transforment en véritables machines à cash avec des pratiques très borderline que vous ne soupçonnez pas. Ils n'hésitent pas à utiliser la psychologie humaine et à mettre au point les meilleurs ou les pires stratégie pour vous faire passer à la caisse à tout prix. Et vous allez voir, c'est maléfique.
Et cette plongée dans ce monde fabuleux des jeux gratuits, mais qui ils veulent ta thune finalement, commence le 22 décembre dernier, en tout cas de mon côté. Parce que ce jour-là, en fait, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions pour lutter, et de nouvelles réglementations, pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. Alors, c'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. La première fois, c'était en 2019, où ils ont limité le temps de jeu pour les mineurs. Ils n'avaient pas le droit de jouer entre 22h et 8h. Après, en 2021, ils ont dit pas plus de 3h par semaine, ce qui est quand même assez... assez restrictif, on va pas se le cacher. Et puis, il fallait s'enregistrer avec sa propre identité, donc avec une numéro de carte d'identité. Et c'était contrôlé via une base de données que contrôle l'État. Bon, ça a pas trop marché parce qu'en fait, ils utilisaient pas mal de comptes soit de majeurs, soit ils utilisaient des sous-comptes, des comptes de leurs parents, comme on peut faire sur Netflix. Donc bon, ça...
C'est-à-dire que les Chinois dérogent à la règle ?
Oui.
C'est pas si bien,
globalement, de ce que j'ai compris, en fait, ils ont fait une analyse sur les joueurs, sur les jeux qui se tournent sur Unity avec un ensemble de données anonymisées. Ils ont constaté que, suivant les années, les stats avaient pas trop changé partout dans le monde. Et donc, ils se sont dit, a priori, alors que le marché chinois est quand même un gros marché, donc ils se sont dit que, a priori, il y avait peut-être des gens qui contournaient un petit peu ces restrictions. Sauf que cette fois-ci, fin décembre, en 2023, c'est nettement plus violent pour l'industrie du jeu vidéo et encore plus du jeu vidéo en Chine, parce que il s'agit dans cette réglementation d'interdire aux jeux en ligne d'accorder des récompenses, donc in-game, quand un joueur se connecte tous les jours, qui est très utilisé par un certain type de jeu, ou alors quand par exemple il dépense pour la première fois de l'argent dans un jeu. Souvent il y a des grosses récompenses qui sont amenées avec. Pareil, c'est énormément utilisé dans les stratégies de certains jeux. Et également, ils plafonnent le chargement des comptes des joueurs. Bref, il y a vraiment une envie une envie de restreindre les microtransactions, comme on les appelle, des jeux free to play, donc via ces microtransactions, et donc de réguler tous ces mécanismes. Qu'est-ce que ça, pourquoi je vous en parle? Parce que bon, c'est juste une loi qui est un projet de loi en Chine. Résultat, le jour même, Tencent, c'est quand même, ils possèdent Riot Games et ils ont un peu moins de 50% dans Epic Games, donc c'est quand même sans doute une des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde. D'ailleurs, Hardis, on a fait une vidéo super intéressante si ça vous intéresse. Ils ont perdu 10% en bourse le jour de l'annonce, ce qui est absolument phénoménal. Et NetEase, qui est un acteur du jeu vidéo un peu plus centré sur le marché chinois, 20% le jour de l'annonce, et je crois que les jours suivants, ça monte jusqu'à 25%. Donc c'est tellement violent que le gouvernement, ils ont dit non mais... C'est un projet de loi. On va peut-être voir un peu le texte. On va étudier avec attention les retours, parce que en fait, ça a eu un tel impact sur ces sociétés que en fait, c'est pas forcément le bon calcul pour la Chine. Et d'ailleurs, un truc un peu rigolo pour se faire pardonner, ils ont approuvé le lancement de 105 jeux. En fait, il faut savoir que là-bas, il y a une régulation qui doit valider tous les jeux qui sortent en Chine, ce qu'on n'a pas à nous, mais un peu comme au cinéma où tu dois avoir ton moins de 12, moins de 18, ils doivent valider tous les jeux. Et donc là, d'un coup, ils se sont dit, vas-y, on valide 105 jeux, mais pourquoi les gens, ils se sont dit, ouais, c'est de l'enfumage, parmi ces 105 jeux, il y a des jeux qui n'existaient plus, en fait. Les créateurs avaient mis la clé sous la porte entre le moment où ils avaient soumis leur jeu pour le marché chinois, ouais. Et maintenant. ils vont valider des jeux random, quoi. Bref, pourquoi de tels impacts sur ces deux sociétés mastodontes de jeux vidéo en Chine? Et ben là, je l'ai déjà un tout petit peu dit, c'est à cause d'un type de jeu, les free-to-play. Les free-to-play, du coup, c'est des jeux gratuits, mais où dedans, on va pouvoir effectuer des micro-transactions au fil du jeu, soit pour, par exemple, acheter des skins et embellir un petit peu son jeu, soit carrément pour avancer plus vite dans le jeu et
pay to win finalement
et ça devient finalement un pay to win et donc c'est un type de jeu qui a d'abord beaucoup percé en Corée du Sud et aussi pas mal sur les jeux mobiles et qui aujourd'hui est un peu présent partout dans le jeu vidéo, même sur les jeux PC, à tel point qu'en 2021 c'était 52% des revenus de l'industrie du jeu vidéo mondial.
Ah ouais.
Donc c'est plus de la moitié des revenus du jeu vidéo, c'est du free-to-play avec des microtransactions. Donc c'est vraiment le shift d'économie sur le jeu vidéo s'est fait ces 5-10 dernières années, c'est assez impressionnant.
Ce qui n'est pas si intuitif parce que
non,
tu te dis avant ils vendaient des jeux 60 balles pièce.
Maintenant c'est même 80
donc,
parfois. Hein.
Donc maintenant ça a augmenté, mais ça veut dire que le modèle free-to-play, ils ont des stratégies qui leur permettent de faire plus de 60 balles de moyenne par utilisateur.
C'est...
Ouais. Or, c'est moi, je n'ai jamais dépensé un centime en microtransactions de ma vie.
Également.
Donc,
non plus, mais...
c'est très mystérieux.
Et c'est pour ça que moi, c'est un... Peut-être que certains connaissent un petit peu cet univers. Moi, vraiment, je suis allé me plonger dans un univers que je connaissais pas et j'ai été surpris par plein de trucs comme ça en mode... Mais... Comment c'est possible que déjà ça représente 52%? Et en fait, il y a une question intéressante à se poser et c'est Linus qui se l'est posé, donc ce youtubeur canadien très connu, actif dans ce podcast, évidemment. C'est finalement, est-ce que la Chine n'aurait pas raison cette fois-ci? Est-ce que réglementer les free-to-play par une réglementation, que ça soit nationale ou internationale, c'est pas une bonne idée? Et donc du coup, pour y répondre, j'ai voulu en fait en apprendre plus sur le fonctionnement des jeux free-to-play. Et vous allez voir que sur certains jeux, les stratégies mises en place sont d'une perfidie. Mais vraiment, c'est même pas une stratégie, c'est une suite de consignes à suivre pour entuber les gens. En tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment le concept du free-to-play? Je trouve que Jamie Cheng, qui est une fondatrice d'un studio de jeux vidéo, l'a très bien résumé par cette phrase. Ne faites pas payer les gens pour qu'ils s'amusent, amusez-les pour qu'ils payent. Et je trouve que ça résume très bien la philosophie du free-to-play. Alors, pour faire vivre ce concept, il faut donc qu'à un moment, les joueurs soient prêts à payer dans le jeu. C'est ça, le goal d'un free-to-play, c'est qu'à un moment, le joueur sorte sa carte bleue. Pour ce faire, les studios de jeux vidéo ont embauché à l'appel des spécialistes en psychologie cognitive et vraiment des experts du sujet. Et en fait, le but, c'est de... Ils les ont intégrés souvent dans les teams de UX, donc d'expérience utilisateur. Alors, il y a des gens experts en psychologie cognitive qui font ça très bien. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Celia Oden, qui est française, je crois. C'est un peu une pionnière dans le milieu. Elle a travaillé sur Fortnite chez Epic Games. Donc, c'est super intéressant. Elle a sorti un livre qui en parle sur... en gros, ça s'appelle « Dans le cerveau d'un gamer ». Du gamer, donc c'est en gros comment on fait en sorte que l'interface par exemple soit super compréhensible tout de suite. Le petit truc en bas, il faut que ça soit le. Elle expliquait que par exemple il y avait c'était une icône de piège à loup. Et en fait, ça correspond à rien dans le jeu parce qu'il y a pas vraiment cet item de piège à loup. Mais en fait, il faut que le joueur comprenne très vite que c'est un piège. Donc en fait, c'est des trucs du X tout simplement qu'on peut avoir sur du site web. Et ils utilisent appliqué au gaming. Et en fait, c'est un métier qui est arrivé en force ces 10 dernières années. Et en fait, qui est un peu vital pour tous les jeux. Sauf que parfois, ils le poussent à l'extrême pour en fait, au lieu que nous aider dans la compréhension de notre jeu et qu'on fasse ce qui est le plus intuitif possible, en fait, pour nous manipuler complètement et acheter des trucs qu'à la base, on s'en dit, jamais je mettrai un centime dans Candy Crush.
Où ça devient une perte de liberté, en gros.
C'est exactement.
Pas,
et en fait,
c'est pas pour ton bien, c'est vraiment juste pour te niquer.
Et en fait, leur but, c'est de lever les barrières des joueurs. Et de lever les barrières des joueurs et de garder son attention, qui est un concept très très important. Moi, il y a un exemple juste avant de continuer qui j'ai trouvé super parlant. C'est l'exemple de Candy Crush. La société derrière, c'est King, et ils ont déclaré en 2013 qu'ils allaient supprimer les pubs de Candy Crush. Candy Crush en 2013, c'est le moment où ça explose et tout. C'est super étonnant comme annonce. Tu dis pourquoi ils suppriment les pubs. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que ça représentait 10% en 2012 et 1% en 2013. Donc on peut comprendre, ok, ils gagnent plus leur vie grâce aux microtransactions dans le jeu.
Qu'est-ce qui représentait 1%, pardon ?
Les pubs dans le jeu. Parce qu'en gros, il y avait des pubs dans Candy Crush qui ont affiché les pubs moches des applications Android.
Ça représentait 10% du temps.
Du revenu.
Du revenu.
Non, pardon. Okay. 10% du revenu en 2012 et 1% en 2013. Donc on peut se dire, ok, ils ont fait ça pour des raisons économiques.
Okay.
Mais en fait, ils ont fait ça surtout pour une autre raison, et c'est eux qui le disent. C'est dans le souci d'offrir une expérience de divertissement ininterrompue à notre réseau de joueurs fidèles. En gros, ce que ça veut dire cette phrase, c'est que c'est plus intéressant de garder un joueur captif que de l'envoyer vers une pub qui va te faire quitter le jeu, et donc déjà qui rend le jeu plus moche, et donc potentiellement qui va l'empêcher de rester sur le jeu et de mettre en place une microtransaction plus tard. Ils se sont dit, en fait, les pubs, même si ça nous rapporte un peu d'argent, ça nous dessert parce qu'il faut garder l'attention du joueur pour qu'à la fin, il paye. Mais comme je le disais, c'est cette économie de la microtransaction qui, potentiellement, a des vertus. Ça permet d'avoir des jeux gratuits. Parfois, ça va très, très, très loin. Bien plus loin que Fortnite, par exemple, qui, à côté, est un petit enfant de cœur. Et pourtant, ça brasse des milliards. Je vous souhaite la bienvenue dans ce monde que je ne connaissais absolument pas. C'est l'incroyable univers des gacha games. Et rien ne... Enfin, ça va être très jugeant ce que je dis, mais rien ne va dans ce délire. Alors, si, en vrai, je peux comprendre que ça peut être très amusant, admettons. Mais je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient des gachapon. J'espère que je le prononce bien, qui est des petites machines à jouer dans des capsules que l'on trouve au Japon. Voilà, exactement. Ça s'appelle un gachapon. Et donc, ça vient de cette chose où vraiment tu mets une pièce, tu sais pas ce que tu vas avoir. C'est un peu de la loterie pour enfants, enfin pas que pour enfants, mais pour...
Oui, comme on peut le voir dans ce...
Voilà, mais ça je crois que c'est une vidéo d'une youtubeuse japonaise, il me semble, qui fait... un tour de les 100 meilleurs gachapon du Japon ou de Tokyo. Ça, c'est la première caractéristique. Donc ça vient déjà d'un jeu d'argent, en fait, bien que très gamifié. Deuxièmement, les gacha games, souvent, ça suit l'histoire d'un animé. Par exemple, Naruto ou Dragon Ball Z. Et le but de ce jeu, alors ça suit l'histoire d'un animé, et puis c'est souvent à base d'invocation de héros. Je sais pas si vous voyez un peu, mais là... on invoque des nouvelles héros, des nouvelles cartes pour pouvoir battre, souvent dans un jeu de combat. Et en fait, le but de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer absolument partout, un peu comme Candy Crush, parfois même en faisant autre chose, par exemple en regardant une série, et que le joueur ait tout le temps la sensation d'être récompensé. Mais genre tout le temps. ou alors dès qu'il y a un petit, parfois tu crées un petit don en mode oh zut le jeu il va mourir, hop là t'es récompensé. Vraiment le but d'un gacha game c'est ça. Et sa dernière caractéristique phare, et après je vais rentrer dans les stratégies de comment faire un bon gacha game, c'est un peu son aspect communautaire. Parce que ben voilà, si il y a toute une foule de joueurs qui se regroupent sur ce même gacha game, tu peux capter un public très à même de s'investir dans ce jeu et donc d'effectuer des microtransactions. Pour un peu mieux comprendre, parce que là c'est potentiellement un peu vague, j'ai pris un exemple d'un gacha game assez connu, mais que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Daikon Battle. Je sais pas si ça vous parle. Vous en avez déjà entendu parler ou?
Non. J'ai dû voir une affiche, mais.
Ok. Et ben c'est un gacha sur l'univers de Dragon Ball Z. Et donc c'est un jeu mobile de combat avec des personnages, des classes, comme beaucoup de jeux vidéo mobiles. Et voilà, où on peut gagner des objets virtuels, mais qu'on tire au sort, un peu comme un gachapon. On lance un peu comme dans FIFA pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est Kameto qui joue. À Daikon Battle, et donc on peut acheter des récompenses ou potentiellement en avoir gratuitement, et on sait pas ce qu'on va avoir derrière, et t'as fait des objets, etc. Donc il y a un aspect de loterie qu'on retrouve dans Gachapon. Et alors c'est pas très récent, il est plutôt en fin de vie, et c'est intéressant de le notifier parce que vous allez voir que c'est limite dans la stratégie des jeux qui, des éditeurs qui font ce type de jeu, c'est qu'en fait la durée de vie de ce jeu n'est pas illimitée. Mais j'y reviendrai juste après. Et ce qui est super intéressant sur ce jeu, c'est que je suis tombé sur la vidéo d'un youtubeur français qui s'appelle Crane, et qui lui a pu parler à un game designer qui est très au fait des gacha games et de comment fonctionne un gacha game. Et en fait, à l'écouter, retranscrire les paroles de ce game designer, c'est autant passionnant que flippant ou perfide. Et donc, vous vous en doutez bien, tout est fait pour que vous dépensiez de l'argent sur le jeu, un max d'argent, même si à la base, vous n'en aviez pas du tout l'envie. Comment les gacha games sont faits? Eh bien, elles sont faites en 5 étapes. Et si vous suivez ces 5 étapes, vous allez faire un super gacha game. Non, la première étape, c'est que le joueur accède au jeu très rapidement, sans friction. Il télécharge, directement il peut jouer, et il sait directement ce qu'il faut faire parce que c'est pas compliqué, t'as pas 3 pages de manuel, t'as pas une campagne, un didacticiel, non. Faut que ça soit direct, gratuit et sans friction, et tu peux jouer instantanément. Deuxième étape, c'est la possibilité de jouer tout de suite pas mal et de level up très rapidement. Donc en fait, tu vas avoir une évolution qui est au début très rapide. Donc c'est comme la courbe de Dunning-Kruger, hein, parce que au début. Non mais c'est vrai, c'est et
faut que t'aies l'impression de devenir fort vite.
Exactement, et sans te lasser surtout. Faut qu'il y ait toujours des nouveautés, etc. Donc ça c'est on en est au début du jeu, de la durée de vie du jeu. C'est les deux premières étapes. La troisième étape, ils appellent ça, et c'est un peu l'étape charnière, c'est le time to go. C'est-à-dire que à ce moment-là, de façon prévue par l'éditeur et le studio du jeu vidéo, il faut paradoxalement que le joueur ait envie d'arrêter le jeu. Et il le force un peu à arrêter le jeu, par exemple en nécessitant plus de points, et il n'a pas assez de points. Donc du coup, il faut qu'il attende, ou en passant par des phases de jeu où il n'y a plus trop de nouveaux contenus. Donc ça l'ennuie un peu. Il crée vraiment ce truc de « Ah, je suis un peu frustré !» par le jeu à ce moment-là. Vraiment, le but, c'est de créer une frustration à ce moment-là. Et c'est vraiment dans les 5 commandements d'un gacha game,
c'est nécessaire.
C'est nécessaire. Il y a un plateau, le joueur, il se fait chier un peu. Pourquoi il fait ça? Pour mettre en place la quatrième étape, qui s'appelle le return hook, donc le crochet de rappel, on pourrait dire. Et là, quelques temps après, du coup, t'arrives avec des nouveaux événements. Et en fait, pourquoi ils ont créé la frustration? C'est qu'en fait, une fois que t'as ça, et eh ben en fait t'es sûr que ça s'intègre dans ton quotidien, que à partir de ce moment-là, ce jeu potentiellement tu vas vraiment l'ouvrir tous les jours et que il est dans ton quotidien. Une fois ça t'a créé de la frustration de pas pouvoir avancer comme tu voulais, finalement.
Et le jeu est de lui-même a débloqué la capacité à venir te chercher là où t'es pour te ramener sur le jeu.
Exactement. Et en fait à partir de ce moment-là, si tu n'y vas pas, et eh ben c'est ça qui te crée la frustration. Donc en fait tu crées une première frustration artificielle, pour que derrière
la combler.
La combler par tu vas sur le jeu. Déjà,
c'est super contre-intuitif, je trouve.
Ouais.
Mais c'est, apparemment, c'est comme Tinder, qui est vraiment aussi basé sur ce principe-là de te renvoyer des, de te récompenser après t'avoir frustré. Enfin, bon.
Ah oui, en.
C'est ce que dit le chat.
Ah oui, sur, en mettant des profils en avant, plus ou moins des profils en avant.
Exactement, il te push à une audience, enfin, il te push à plus de profils après avoir fait exprès de te montrer à personne. Jusqu'à ce que, et pour réobtenir cette, bon, alors, je veux pas spoiler.
Non, non, t'inquiète.
le problème, c'est que ça spoil okay. un peu la suite.
Mais donc, du coup, la cinquième et dernière étape que ces jeux attendent. Alors, dans le type de Dokken Battle, ils appellent ça amener à l'invocation. Parce que, en fait, tu peux invoquer des nouveaux héros. Et en fait, c'est ce qui est typiquement assez souvent payant si tu veux des bons héros et des belles cartes. Et donc, tu vas potentiellement être amené à payer à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que en faisant cette analyse, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas un très bon gameplay, les gacha games. C'est il y aurait plein de choses pour que tu t'amuses mieux et plus efficacement. Et en fait, ce qui m'a retourné le cerveau, c'est que le game designer, il disait, en gros, en substance, que c'est si pour avoir un bon gacha game, il faut pas que le gameplay soit incroyable. Parce que sinon, typiquement, t'as créé une frustration à un moment où tu devais pas. Et par exemple, au début, il faut qu'il farme beaucoup, pas mal de temps. Ça peut être un peu chiant. Un bon gameplay de jeu vidéo que tu payes, il ferait pas ça. Parce qu'il va pas te passer 3 jours à farmer comme un porc. Je dis 3 jours, mais j'aurais pu dire plus ou moins. Et donc, en fait, c'est pas un gameplay très satisfaisant pour le joueur. Mais c'est un type de gameplay, grâce à ces 5 étapes, qui peut amener le joueur à potentiellement effectuer sa première transaction.
Donc en fait, il faut que le jeu soit pas fou, sinon la courbe de la récompense n'est pas bien respectée.
Exactement, tu as super bien résumé.
C'est tellement bizarre.
Attends, parce que du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que après, tu vas être prêt à payer
si tu veux
pour
revivre,
améliorer ton expérience.
En fait, le but ultime de ces jeux de gacha game, quand tu les développes évidemment, c'est de faire passer la barrière à un joueur. Tu es un joueur gratuit et tu ne payes pas ton jeu, à tu as effectué ta première microtransaction. C'est tout l'enjeu de tous ces jeux. C'est vraiment tu ne payes rien à tu as payé une fois, même si c'est 99 centimes. Et souvent c'est la première fois que tu payes, c'est pas beaucoup plus. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'une fois que t'as payé 99 centimes, les barrières derrière sautent les unes après les autres. Parce que, en fait, ils font en sorte que pour 99 centimes, t'as eu un résultat insane. Beaucoup trop pour ce que ça t'a coûté. En gros, là, vraiment, ils t'ont rincé la première fois. Ils t'ont 99 centimes, ils t'ont mis des étoiles dans les yeux, tout ce que t'as pris en loterie, c'était des dingueries et tout machin.
Ah, mais ils modifient les probabilités des cadeaux.
Évidemment, ils modifient. Évidemment. Ah non, mais tu crois qu'ils ont une race? Et donc, en fait, la première fois, c'est 99 centimes. Puis après, le pack d'après, c'est 2. Puis 3. Puis 4. Il y en a même qui pensent qu'il y a des algos qui détectent tes habitudes de dépenses du joueur pour toujours te faire passer, se calquer et un tout petit peu plus. Ouais. En mode, il est habitué à payer 2 euros. Ah, 2,50 euros, potentiellement, ouais. Ça peut passer. Alors ça, je sais que c'est pas tous les jeux qui font ça. Mais vraiment, le but, c'est de faire augmenter un peu le panier moyen, comme on pourrait dire. Et en fait, ce procédé a fait deux choses. C'est que déjà, t'as lié ta carte bleue au jeu. Bon, c'est un premier truc très pratique. Mais surtout, qu'en fait, ils ont analysé que le fait d'avoir payé une fois, ça change complètement ton procédé psychologique, en fait. C'est le premier achat, c'est le plus important, parce que derrière, tu as débloqué le fait que tu as déjà acheté et que potentiellement, tu vas racheter derrière.
Bah, y a aussi que tu as commencé à... Je sais pas, c'est pas une grosse somme, tu vois, 99 centimes par exemple, mais tu as commencé à investir dans le jeu, du coup, tu te dis...
Tant qu'à faire, c'est bon, là, j'ai choisi ce jeu.
Ça.
Les autres, je mets rien, mais sur celui-là, c'est mon jeu, donc je mets de l'argent.
Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, c'est très marrant, le youtubeur dont il parlait de ça, il disait qu'une des solutions pour s'en prémunir, pour lui, qui était un fan de gacha game, tu vois, en vrai, c'est des jeux qui peuvent te faire kiffer, c'était d'en jouer à plusieurs. Alors, ça marche pas avec tout le monde, mais il disait, en fait, comme ça, tu t'attaches moins à un, et si t'as la déception dans l'autre, t'auras potentiellement moins de déception dans un. Ouais, j'ai trouvé la réflexion super intéressante.
En fait, c'est le principe du biais de cohérence, si je dis pas de bêtises, qui te pousse comme ça à à partir du moment où t'as fait baisser le tomber le premier mur, à être cohérent vis-à-vis de tes actions précédentes. Donc à partir du moment où t'as dit, ok, ouais, à partir du moment où je m'autorise à payer 99 centimes, toutes les fois prochaines seront beaucoup, beaucoup plus acceptables parce qu'elles sont cohérentes vis-à-vis de ce que t'as fait.
Ouais. Alors j'ai plus le nom en tête du biais, mais s'ils veulent. Non, mais du coup t'es sûr de c'est ça.
Oui, oui, à peu près.
Ok. et donc du coup, en fait, c'est ce que la loi chinoise voulait interdire à la base. C'était vraiment ce premier achat que tu puisses avoir des récompenses complètement insane. Et la deuxième qu'ils veulent t'interdire, c'est un mécanisme dont j'ai un peu moins parlé. C'est que t'as des récompenses si tu te connectes tous les jours. Mais si tu loupes une journée, eh ben tu redescends à zéro. Et donc par exemple, s'il faut que tu te connectes 150 jours d'affilée pour avoir une récompense de fou, ben, en fait ça incite vachement à ça. Et la loi chinoise voulait empêcher ça. Et donc en fait, il y a là, je vous ai écrit l'étape les plus importantes, mais en fait, il y a plein de petites méthodes comme ça qui sont mises en place dans un gacha game, notamment le fait que ils font un fin mélange entre ils te quand même gardent une chance en mode tu peux avoir ce que tu vas payer et gratuitement. Et de temps en temps, ils t'en donnent un pour quand même que tu gardes un peu la foi dans le jeu et de se dire ah en fait le jeu il est quand même coûte au compte-goutte on va te donner une carte chouette sans avoir payé, mais en réalité ce qui est codé derrière c'est que si tu ne payes pas et ben tu ne pourras jamais gagner contre en tout cas sur la durée contre ceux qui payent. Et pour donner un petit peu de chiffres et de thunes, le mec dans sa vidéo disait que par exemple pour avoir une carte assez classique et bonne, il fallait miser, fallait avoir mis dans le jeu 300 ou 400 dollars en moyenne dans le jeu. Et pour avoir une carte légendaire, alors là je le cite, hein, vraiment je lui fais confiance, c'était 2500 à 3000 euros en moyenne pour avoir une carte légendaire sur Dokken Battle. Et tu vois, moi qui connaissais pas cet univers, quand j'ai vu ça, wow.
Mais c'est pour ça qu'en fait, ils sont quand même profitables, même s'il y a des gens qui vont jamais payer comme nous. Enfin, ce que vous avez dit au début de l'émission, c'est que vous avez jamais payé, moi non plus. Mais c'est parce qu'en fait, à côté de ça, il y a des, gens qui mettent des sommes.
Toutes leurs économies là-dedans.
Incroyable, quoi.
Exactement. Et en fait, est-ce que ça marche ou pas? Eh ben, tu l'as exactement dit. En fait, dans ces jeux, alors, tout jeu confondu, pas uniquement les gacha games, mais tous les free to play confondus, il y a souvent entre 5 et 10% seulement des joueurs qui payent. Mais en fait, les joueurs qui payent beaucoup, qu'on appelle les baleines, c'est ceux qui financent le jeu.
Ouais, c'est fou.
Et en fait, le but de ces sociétés qui montent des gacha games, c'est de créer un super fan game, donc un jeu à baleines. Et c'est grâce à ces baleines qu'ils vont financer le jeu. Et c'est pour ça que c'est impossible de rivaliser avec les baleines dans le jeu, parce que c'est eux qui tiennent en vie la finance du jeu.
C'est les vrais clients, en fait.
Et ouais, même que j'ai entendu parler d'une histoire qui disait que un jour, il y a un seul jeu. Ils ont testé un jeu. Ils l'ont mis pas partout dans le monde, mais dans certains pays. Et il a été financé par un seul type qui a mis 50 000 dollars. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est comme si le mec, il avait racheté le studio, quoi.
En fait, moi, ce que je trouve.
C'était un petit jeu, hein. C'était pas un jeu très populaire.
C'est terrible. On pourrait se dire, probablement que la personne qui a mis 50 000 balles, c'est qu'elle roule sur l'or et c'est un millionnaire. Alors, oui, dans ce cas-là, un peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très probable qu'énormément de paniers très élevés ne correspondent pas du tout à des revenus très élevés. Et comme on peut le voir au casino ou dans tous les trucs addictifs ou de la drogue, etc., en réalité, tu peux te ruiner sans avoir du tout les moyens d'encaisser ces microtransactions.
Et en fait, ça a tous les principes.
C'est macro-transactions pour le coup.
Ouais, c'est micro-transactions qui deviennent macro-transactions. Et en fait, c'est complètement des principes de casino, sauf que c'est pas réglementé comme le casino l'est quand même de façon.
J'allais dire, en fait, c'est. Non. La cible, en plus, c'est des gens qui potentiellement ont besoin de freins. Enfin.
Ouais.
Qui auraient besoin, je pense, de freins, comme exactement dans les casinos où il y a. D'ailleurs, dans les casinos,
des machines à sous, des choses comme ça. Quoi.
Ouais, mais il y a pas vraiment de frein en fait pour les gens qui.
Bon non, ils enlèvent les horloges dans les casinos donc.
Ouais. Donc,
mais par exemple, moi j'ai traîné sur Reddit et il y a des témoignages de gens qui disent qu'ils ont mis plus de 200 000 dollars dans un gacha game quoi, dans un jeu comme ça. Quoi.
Ah mais t'imagines.
200 000 dollars, c'est le prix d'une maison.
Ouais.
C'est enfin encore une fois hein, moi je, alors, peut-être il y en a qui découvrent pas, mais moi qui découvre, je trouve ça absolument dingue.
Et c'est potentiellement facile de juger en mode
ah ouais
pourquoi prendre des décisions irrationnelles. Mais en fait, on ne juge pas quelqu'un de malade. Genre, c'est littéralement, c'est des procédés qui viennent se brancher directement sur ton cerveau, en fait.
Et en fait,
et donc, mais même quand je pense pour des gens qui sont potentiellement victimes de ça, commencer par considérer que potentiellement c'est un comportement qui n'est pas normal entre guillemets et qu'il faut traiter, genre, et potentiellement demander de l'aide et tout. Ça peut être pas bête parce que vous êtes tout. En fait, faut se dire que vous êtes tout seul face à des armées de psychologues.
Oui, et donc, exactement.
Si vous n'arrivez pas à arrêter, etc., tout va bien, c'est normal. Potentiellement, c'est pas bête de se faire aider, quoi.
Ouais. Et en fait, face à une machine tellement sophistiquée, enfin, c'est vraiment. C'est David contre Goliath, quoi. Et du coup, ce youtubeur fan de Gacha Game, en vrai, il donnait quelques astuces pour essayer de s'en préserver. Alors, il y en a plein, mais il y en a une. Il disait que tu peux contacter Google, parce qu'évidemment, Google et Apple récupèrent 30% de toutes ces transactions. Ouais. Ah, ils se font des couilles en or.
Sur les 50 000 balles, en fait, il y en a 15K qui sont partis chez ouais. Apple, quoi.
Ouais. C'est fou. Alors, à leur échelle, c'est peut-être pas énorme, mais... Ouais. Et en fait, il disait qu'un jour où il a complètement craqué, voilà, il s'en est rendu compte qu'il a fait des bêtises et tout. Il a contacté Google pour savoir s'il pouvait pas se faire rembourser. En expliquant, il le raconte dans sa vidéo pour ceux que ça intéresse, mais en expliquant, vraiment la vérité, ouais. j'ai pas su me contrôler et tout. Je suis un YouTuber, machin. Et tout. Il a expliqué son. Et en fait, il disait, on sait pas. Il a réussi à être remboursé.
Ah ouais.
Ouais. Et en fait, ça arrive qu'ils remboursent. Donc, tu peux appeler Google et c'est pas obligé. Ils le feront pas forcément. Ouais. Ils peuvent aussi te supprimer l'accès au jeu, ce qui paraît cohérent, quoi. Ouais. Mais tu peux potentiellement. Tout n'est pas terminé dans ce monde. Il y a quand même parfois quelques mécanismes de sécurité où tu peux potentiellement en rollback. Faut pas forcément compter
dessus. Après, si ça se trouve, c'est un YouTuber, donc il a une audience. Donc
exactement.
Il faut foutre la merde.
Oui, non, il a tout expliqué. Non, mais voilà. Donc.
Et du coup, c'est par intérêt. C'est sûr,
mais,
c'est possible.
Mais je trouve intéressant qu'il donne pas que cet exemple. Il donne plusieurs exemples de comment arriver.
Surtout les gachas, tu peux te faire rembourser. Tous.
Ah ouais? C'est dans le chat?
C'est une info-chat, mais à prendre avec les pincettes d'une info-chat, mais c'est intéressant. Pardon.
Mais voilà. Et du coup, j'ai pas cité toutes les petites techniques, mais évidemment, le fait d'utiliser de l'argent virtuel plutôt que du vrai argent, tu le convertis d'abord en argent virtuel dans le jeu.
En fait, tu fais un x800 ou un truc comme ça, et hop, voilà. Tu perds toute la notion. De...
Et tu perds la notion, comme au casino, de ce que te coûte réellement, ce que t'es... en train d'acheter, le fait de mélanger, de mettre au compte-goutte un petit peu de chance, et puis aussi le fait de créer une communauté avec les youtubeurs, mais pas que, hein, où en fait les baleines et ceux qui payent sont les good guys.
Ouais.
Et donc du coup ça c'est très malin aussi, ils ont réussi à faire ça, et en fait c'est ça devient des sponsors mais qui sont pas payés, quoi. Donc et c'est eux,
gros,
qui payent.
C'est un peu les VIP du casino, quoi, mais ouais. Sur Reddit.
et on a vu ça avec Genshin Impact, ouais. Sauf que eux du coup ils font des sponsors, mais
très malin. Mais j'ai une question qui me reste, que t'as teasé, c'est pourquoi est-ce que c'est prévu que ces jeux ils aient une fin si jamais ils sont si rentables que ça?
Et bien en fait, j'ai découvert que c'est souvent des sociétés qui sont créées très rapidement pour être rentables très très vite. Parce qu'en fait, c'est pas d'une complexité fou et que tu peux faire plein de gacha games dans des univers différents. Mais qu'en fait, quasiment tout le temps, à un moment, le jeu, il arrêtera sa durée de vie au bout de 4-5 ans. Et donc, en fait, parce que en fait, c'est juste, ça a gagné énormément d'argent et à un moment, le jeu devient un peu moins populaire et il faut cash out. Et donc, du coup, ce qui est atroce, c'est que ton investissement, entre guillemets, dans le jeu... À un moment, alors c'est pas un investissement, c'est de la perte d'argent, mais tu peux te dire que voilà, c'est un investissement dans mon divertissement et tout machin. D'un coup, il se stoppe parce que c'est pas toi qui décides en fait. La société, elle ferme.
Tu ne possèdes rien qu'une petite ligne sur une base de données.
Exactement.
Sur le serveur de quelqu'un d'autre.
Et j'ai trouvé ça encore plus déprimant quand j'ai vu ça. Et il y a un autre truc qui m'a un peu déprimé. Enfin non, ça c'est plus rigolo en vrai. C'est quand le free to play va trop loin. J'avais lu un article de presse. Qui disait que dans le Diablo Immortal, pour avoir le full setup, il fallait payer 110 000 dollars. Et là, tu te dis à quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée.
C'est-à-dire qu'ils ont prévu le coup. C'est là où tu comprends le principe de la baleine. C'est que ils ont prévu que tu puisses monter aussi haut parce que cette personne existe peut-être.
Exactement. Mais du coup, je trouvais
et
ça très marrant.
Elle existe, cette personne ? Quelqu'un a payé cette somme ?
Ça, je ne sais pas
dans l'article.
C'est quelqu'un dans le chat. Moi, je suis curieux, avant de conclure, mais est-ce que dans le chat, certains veulent nous partager, peut-être qu'ils ont dépensé plus de 100 balles dans des micros de transmission, ouais. Si vous voulez nous partager, c'est pas une fierté, c'est qu'on va juger, c'est juste par curiosité voir voilà quel
pourcentage,
quelle quantité de d'argent c'est possible d'atteindre et dans quel jeu.
Ok, bonjour, je ne suis pas dans le chat mais je me permets d'intervenir.
Oui.
150 balles dans Pokémon Go.
Oh, pas mal.
Ok. Pas mal, super.
Ils m'ont eu.
Ok, pas mal. 150 balles dans Pokémon Go. Ok. Non, intéressant.
Des centaines dans CS:GO.
Plus de 1000 balles dans Summoner's Wars. Des centaines dans CS:GO.
Ah, on a des baleines dans le chat ?
Bah, attends, ça combien une baleine ?
Oh, putain. Un pote, 10 000 balles.
Oh, un pote, 10 000 balles dans Rise of Kingdom.
Oh.
Ok, 130 euros sur plus de 6 ans sur un gacha game, ok.
Ça va, 130 euros sur 6 ans, c'est presque ok. Plus de 5 000 dollars dans AFK Arena.
Ouais, dès qu'on passe les 4 digits, c'est.
Ouais, ça commence à être quand même quelque chose.
Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit, bah, si c'est pour 500 heures de plaisir. Ah, son message il part, mais faut pas trop se sentir coupable. Il y a ça aussi, c'est que.
Oui, bien sûr.
Si t'es conscient.
Gros big up à celui qui a demandé si Tinder ça comptait.
Si t'es conscient que, tu vois, au lieu d'aller au resto ou.
Exactement. Tout comme tu peux aller au casino quelques fois de temps en temps et ne pas devoir aller en détox, quoi.
Et encore une fois, même si ça vous arrive, c'est pas vous les victimes.
3000 balles. 10K
dans FUT. Oh,
si, c'est eux les victimes.
10K dans FIFA Ultimate Team, c'est ça
ouais, tu sais, les.
1000 euros.
Ouais. Tu sais, il y a un. Un mode de jeu à FIFA où tu peux acheter des cartes.
C'est quand même impressionnant. Eh ben écoutez.
Donc, du coup, la question de fin, c'est est-ce que la Chine a raison de vouloir mettre en place une réglementation ? Est-ce qu'ils vont revenir dessus aussi ? On devrait faire pareil.
Parce que si la Chine a raison, tous les gens du chat ici n'auraient pas pu dépenser autant potentiellement.
Potentiellement. Après, ça joue principalement sur 2-3 mécanismes qui sont vraiment très pervers. Ouais, c'est la première transaction et le fait de revenir tous les jours. Si on reste, discute.
C'est le hook qui est moins. En fait, ils essaient juste de jouer sur ces mécanismes-là psychologiques, mais en fait, tu peux quand même toujours jouer au jeu. C'est moins addictif. Mmh.
C'est ça.
Et je rappelle qu'en tant qu'entreprise, nous sommes une baleine également, puisque nous avons mis 280 euros dans Fruits.
Oui, mais c'était pour une vidéo, ok ?
Bonne année, excuse quand même.
Non, franchement, là, c'est des frais de société. voilà, c'est du consommable, comme on dit dans le milieu.
Et toi, c'est quoi ton avis, ça ? Tu ne réponds pas à la question.
C'est compliqué.
Est-ce qu'elle a
raison ? C'est compliqué. En vrai, potentiellement, oui, parce que on peut prendre ce sujet comme.
Ça pas absurde. Si c'est le cas.
Comme on combat la cigarette, comme un problème de santé publique, on pourrait réglementer ça. Après, certains libertariens diront que bah voilà, il faut laisser les entreprises privées faire ce qu'ils veulent. Moi, je trouve ça pas bête, honnêtement.
Comme pour le casino, en fait, Ouais, mais effectivement, ça me choque pas plus que ça. À partir du moment où on arrive sur la question de la santé.
Ouais. Et de l'addiction, quoi, tout simplement.
Voilà, ouais. Et donc, aussi, de la perte de liberté, on peut se dire collectivement, ça, peut-être qu'on peut dire qu'on ne fait plus.
Mais il y a aussi les mêmes mécanismes comme ça dans les réseaux sociaux qui sont questionnés. Ouais. Sur, par exemple, TikTok, c'est un système qui est très addictif aussi de swiper sur des vidéos et des trucs comme ça. Et qu'au final, on commençait à se questionner sur la santé des jeunes. Ben à ce moment-là, je trouve que c'est quand même important de se poser la question.
Et ben à ce moment-là, ce qu'a fait le Parti communiste chinois, c'est de réduire le temps maximum de TikTok à 40 minutes. Mm. Et après, ils ont fait une grosse sélection sur les contenus mis en avant sur la plateforme.
Ouais.
Et t'as des tutos pour devenir astronaute pendant que nous on a des danses.
Ouais.
Donc ouais,
ils sont très forts sur TikTok.
Bah, c'est le
fait d'avoir scindé en deux leur appli, masterclass.
Très intéressant, franchement, c'était vraiment, vraiment cool.
Ouais, bah écoute, trop bien. Mais encore une fois, moi, j'y connaissais rien et j'ai plusieurs fois halluciné de ce que j'ai découvert.
Comme quoi, la perversion est partout.
Et en vrai, moi, ça m'a pas donné l'envie, justement, mais je me suis dit, faut pas que je tombe dans ce jeu. Parce qu'en vrai, je pourrais, enfin, tu vois, je suis humain, un truc comme Candy Crush, et je me dis, en fait, comme la cigarette, faut que je m'en tienne à l'écart, quoi. C'est plus dangereux que ça m'apporte du bien.
Maintenant que tu connais le mécanisme. Ça t'a démoralisé.
C'est un peu ça.
T'a démotivé
Tu peux y jouer, mais comme tu l'as consciemment, tu vois.
Ou au moins, je sais comment ça fonctionne.
Tu te dis, non, je vais pas tomber là-dedans, et puis tu te dis.
Ouais, mais en même temps, franchement, mettre 99 centimes la première fois.
Non,
mais tu vois. Franchement, alors, pour me faire avancer de 1000 milliards d'étapes dans le jeu.
Ouais, mais moi, la step, je trouve qu'elle est énorme au moment où on me demande mon numéro de carte bancaire.
Ouais, et je suis d'accord.
Au moment où je dois rentrer ma carte, je suis nah.
Et d'ailleurs, conseil qui donnait, désactiver le, par exemple, le Face ID ou le paiement par carte, par carte, par
Apple Pay,
par, empreinte digitale,
empreinte digitale, oui, sur Apple Pay ou Google Pay, et devoir taper son mot de passe du compte. Il disait, en vrai, ça aide.
En fait, tu crées de la friction. Enfin, ouais. tu contres la psychologie par de la psychologie.
Exactement.
Très fort.
On va finir par inviter un psychologue.
Ouais, bah, why not, franchement.
Franchement, sur des sujets comme ça, avec, on a déjà eu le projet, en vrai.
Ouais, carrément. Trop cool. Et ben, j'espère que vous avez apprécié ces trois chroniques.
Tu sais qu'on finit l'émission à 21h, qui est normalement l'heure de fin de l'émission.
Exactement.
C'est incroyable.
Là, c'est l'émission chronométrée. j'espère que vous avez, en tout cas, découvert des choses avec nous. Si vous avez raté des morceaux de l'émission, tout cela sera disponible sur la chaîne YouTube, évidemment. Et sinon, vous pouvez follow cette chaîne Twitch. La prochaine émission, c'est dans 2 semaines, mercredi à 19h. Et sur ce, bah, nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci Tiffany et Mathieu.
Merci à vous.
Avec grand plaisir.
Et à la prochaine.
Bonne soirée.
Tchuss.
Tchuss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.